Hey, comment ça va la gang? On est à l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Mathias Turcotte et Antonine Iaccarini. Ça vous arrive-tu d'avoir une double personnalité? Non, c'est parce qu'on est en train de parler, tu sais, comment des fois on peut se transformer.
Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Quelqu'un d'autre. On parle de ça en ronde, fait que textez-nous votre deuxième personnalité, 418-971-1021. Vous devenez qui? J'espère que vous ne devenez pas un tueur en série, par exemple.
J'ose espérer. Ouais. C'est un peu la moindre des choses, mettons.
Ça, c'est non.
Ouais, c'est ça. Ça n'irait pas bien, les amis. Oh, il y a Carl qui nous écrit. Bonjour, remorquage auto près du pont Pierre, la porte nord, voie de droite. Tu veux me checker ça, mon Matt? D'après moi, il va avoir la petite circulation à midi. Je suis pas mal convaincu. Sinon, merci d'être à l'écoute de l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous pouvez l'écouter via la web radio au blvd.fm, notre application BLVD101 sur App Store, Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM. Et également, aujourd'hui comme hier, là, ben, on va avoir deux beaux tirages pour vous durant l'émission. Le tirage pour la soirée du 22 octobre. J'ai très, 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 très hâte de vous voir, chers auditeurs, pour les 10 ans de Boulevard et les 20 ans du Coupe Radio. Le plus long, sûrement, de l'histoire de la radio, Denis Gravel et Véro Bergeron. Donc, on va fêter ça le 22 octobre prochain, mal commode. J'ai deux laissés-passer VIP pour vous, à vous faire tirer. Et également, j'ai une paire de billets pour le spectacle d'Offspring, 21 février prochain, au Centre Bell de Montréal. Ça me fait mal, ça. The Offspring, mon band.
Pas Québec, ben non.
Eh oui, mon band d'adolescence, quand même. L'album Smash, je l'ai écouté jusqu'à temps que la cassette casse dans la Ford Escort de ma mère.
Oh.
Avec mes chums de gars, on partait 5 dans le char, Offspring dans
c'est
le piton.
C'est la première cassette que j'ai achetée, moi.
Ouais, Smash. Ben, moi aussi. Ouais. C'est drôle.
Puis
c'est
avec l'album de Marie-Carmen.
Ah, ouais.
J'ai toujours des styles musicaux un peu bizarres.
Exactement. Oh, on me pose ça sur des news de Pascal et de sa descente. Écoute, j'ai pas de news en tant que telle de Pascal, mais Marc-Antoine Reed, qui était le leader du groupe, m'a écrit ce matin pour me dire « Hey, Jeff, ça te dérange juste la semaine prochaine, je fais ma chronique mercredi au lieu de mardi, je reviens lundi dans la nuit en avion. » Tu as vu qu'il venait de monter de Kilimanjaro? J'ai dit « Oui. » Pas vrai, hein?
C'est gentil, t'es tellement flexible.
Très flexible. Ouais, je suis smart de même, moi, Grim. Alors, tout simplement, donc Mathias qui se lève, là, il se passe de quoi l'instant-là? Quand Matt se lève, là, il y a toujours une affaire technique.
Il faut aussi dire que la technique aujourd'hui, ça a été un défi. On est arrivé à l'heure en ondes, mais Jeff et Mathias ont brisé l'imprimante.
L'imprimante! Non, mais... ça vous arrive-tu des fois, 418-971-101, de fucker le chien avec l'imprimante, là, t'sais, pour finalement te rendre compte qu'il manquait juste du papier?
C'est ça. Fait que quand ils ont mis du papier, il s'est mis à sortir 250 pages de l'imprimante à peu près.
Non, c'est
je tiens à dire, c'est pas de ma faute, celle-là.
Non.
C'est Jeff qui a fait imprimer son plan, je pense, 10 fois avant de réaliser qu'il n'y avait plus de papier. Puis, je veux dire... Là, je vous parle, cher auditeur, ça doit vous arriver là, des journées où que ça roule, puis vous prenez du retard, puis vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de rattraper le retard pour plein de raisons. Ça a été mon cas ce matin, sorti à Lévis de Stephen Blaney, qui a surtout parlé du moratoire. On va reprendre une construction plus intensive à Lévis.
Ouais, c'est un gros
enjeu. 4 ans pour lui, c'est du côté de M. Blaney. On dit qu'il y a plusieurs moyens qui peuvent être déployés pour reprendre ça avant. Il témoigne une perte de 150 millions en termes de développement économique pour la région de Lévis si jamais on attend les 4 ans. Ce qui est arrivé, en gros, c'est que je suis allé au point de presse, j'ai couvert le point de presse, posé mes questions toutes, ça s'est bien passé, mais j'ai oublié mon sac avec mon ordinateur, puis je m'en suis rendu compte une fois à la station, mais vous comprendrez que c'est un 30 minutes de voiture, 30-35 minutes, donc j'arrive à la station à 11h, j'ai un show à faire, je peux pas retourner chercher.
Ton ordinateur,
ben c'est
toi,
ça,
là,
mon outil, c'est mon ordinateur, c'est mon outil de travail numéro 1, c'est avec ça que je prépare les nouvelles, c'est avec ça que je me prépare en général, donc ça a été un travail d'ajustement, un ordi que j'ai jamais utilisé, que je suis connecté sur aucun de mes comptes, que j'ai entre les mains présentement. J'ai dû appeler un ami pour qu'il se rende sur place, aller chercher mon ordi. Et elle est sécurisée, mon ordi est sécurisé. J'ai pas perdu mon ordinateur parce que Dans un budget d'étudiant, un ordinateur.
Non, non, on s'entend.
Ça fait mal, ça fait
mais
mal.
Mais tout ça pour dire que le show commence quand même à midi. Fait que, exactement. Peu importe ce qui se passe, les ordis, les imprimantes, il faut quand même qu'on commence à midi. Ben oui.
Et on était là, derrière le micro, prêt pour vous, parce qu'on aime énormément vous jaser d'actualité et on aime ce segment-là.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Vous le répète, c'est du lundi au jeudi de midi à 12h30, le caucus Iaccarini. Antonine, qui, pendant l'absence de Pascal, nous fait le bonheur d'être avec nous une heure en onde. Antonine, hier soir, j'ai fait un exercice que j'adore. J'ai assisté au débat des candidats à la mairie de Québec. J'adore ces exercices démocratiques-là. J'aime beaucoup y aller. Et là, tout le monde, mes collègues journalistes sur le terrain qui m'ont connu les deux dernières années, me disaient « Ah, on est donc bien content de te voir, Jeff! » Parce que là, maintenant, en faisant le show du matin,
la foule était en délire.
Tu comprendras que je les voyais plus beaucoup. Alors, ben on s'est jasé. Même le maire Marchand était tout heureux de me voir, a pris des nouvelles de moi, je te le dis.
C'était la star du soir.
Qu'est-ce? Ben non, 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 non. C'est quand même les six candidats, là. Moi, j'étais assis dans le coin à droite, bien peinard, là. Bien tranquille, mais...
Il était privilégié d'avoir Jeff. D'habitude, ils ont juste Mathias. C'est un grand événement quand même.
Mais je vais vous avouer que ça a été toute une journée de travail. Là. Je m'étais quand même levé à 3h45 pour le show du matin, puis j'ai terminé ça hier soir. Je suis sorti là à 8h. Pour le débat.
Pas tous les jours, s'il te plaît.
Non, pas tous les jours. Ça a été une bonne journée, mais exercice très intéressant. J'ai aimé de la façon qu'on a fait ça du côté de la Chambre de commerce parce qu'il y avait 6 candidats à la mairie. On le sait, c'est bien ça. Et, ouais, t'es comme moi, Matt, il y a un petit son. Hein?
Oui, on a un son de fond. Il y a comme un feedback,
comme
je vais aller voir avec la technique.
Double. Oui, exactement. Parfait. Donc, on va tenter de faire fi du feedback. Et ce qui arrive, c'est que les 6 candidats sur chaque thème pouvaient se préparer, mais par la suite, il n'y avait pas nécessairement... on se mettait en duo. Donc, on débattait en
face
duo,
à face,
ce qui était vraiment plus intéressant qu'à la normale. Et c'était divisé en 3 thèmes. Donc, économie, transport et mobilité et logement. On a parlé de tramway tout le long. Ah, oh, je suis découragé.
Color me surprised.
Non, c'est ça. Mais je suis découragé. J'ai le goût d'entendre d'autres choses que je suis pour le tramway ou je suis
anti-tramway.
C'est pour ça que
Bruno Marchand s'aligne de dire, ben, t'sais, il s'attaque principalement à sa maman et à Stéphane Lachance là-dessus, mais de dire, vous nous faites revivre l'élection de 2021.
Mais il a entièrement raison.
C'est une bonne ligne parce que c'est vrai qu'on a des impressions de déjà-vu et de jour de la marmotte.
Exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec, parce que j'ai enregistré tout le débat, et j'ai fait des petits montages. Donc, un montage pour l'économie, un montage pour transport, mobilité, un pour logement et un avec les différents commentaires là, des candidats à la mairie avec le scrum de fin, justement, de débat. Alors, je te propose d'écouter les 4 et on commence avec l'économie. Ça te convient?
On y va.
Encore là, c'est des détails techniques. Je vois pas de vision là-dedans. J'entends pas.
15 secondes.
De grands projets.
Ma vision, c'est de faire en sorte de mettre de l'argent dans les poches des gens.
On l'a dit tantôt. Un grand projet.
Ma vision, ce sera pas d'aller jouer en tant que tel dans d'autres secteurs où j'ai pas de juridiction.
On va enlever la taxe de M. Marchand de 60 $. On va enlever les frais qu'on paye pour faire 12 paiements par année, nos taxes. Il y a des frais de 80 $. On va l'enlever. Si on a 2 voitures, puis cette taxe-là et la petite taxe sur les chats, aussi on l'enlève, c'est 200 $
de moins. Développement économique,
c'est 200 $.
Vous parlez de taxes sur les chats.
En fait, la fiscalité...
C'est pas du développement économique,
M. Marchand.
On a amélioré... Bien qu'en dise le contraire, M. Hamad, ce qu'il faut par des indicateurs indépendants, l'environnement d'affaires de nos commerçants, de nos entrepreneurs, on est passé de la 11e place au Canada à la 2e place, et c'est KPMG qui le dit.
Tu sais, à un moment donné, là, vous savez, M. Marchand, tout le monde a le droit de rêver. Tout le monde.
Mais ça tombe bien parce
moi,
que...
Moi, je trouve que vous rêvez.
Ça tombe bien parce que votre cadre financier est fait comme ça.
Oui, oui.
Mais ça tombe très bien parce que votre cadre financier, quand vous dites...
Vous parlez de ce cadre-là?
Oui. Je peux vous parler du mien?
Oui, pas problème, je suis content. Okay. Au moins, on en aura chacun. Ça, là-dessus, au moins, on va s'aggraver.
Exactement.
Très bien. Je pense que vous avez compris.
Ben non, pas vraiment. Genre, c'est pas plus sur ce que vous voulez faire poser comme geste économique, comme mesure. Puis si vous voulez vous occuper du développement de la Rive-Sud, il y a une élection municipale à Lévis également. Comme M. Lachance nous démontre, c'est pas impossible de traverser d'une rive à l'autre.
Tu sais, je suis la politique municipale depuis 2 ans sur les pour Boulevard 101, puis... Bruno Marchand, en termes de développement économique, a une année 2023 difficile avec un recul de 0,3% par rapport au PIB et une augmentation très modeste de 0,4% en 2024. C'est même pas venu de la bouche d'aucun opposant hier.
Non,
on lui
c'est
a
ça.
Laissé le chemin libre.
Ben oui, parce que finalement, puis tout le temps qu'on prend à parler du tramway, veut, veut pas, ça élude d'autres
exactement.
Enjeux aussi. Je pense que c'est pour ça que les gens sont un peu tannés aussi de qu'on, que tout à Québec tourne autour des projets de transport. C'est parce qu'il y a d'autres choses. Le développement économique, c'est pas juste le tramway. C'est vrai que la vision économique de Bruno Marchand, il y a quand même un gros bout qui, disons, est lié au tramway,
oui.
Parce qu'on considère que ça va être
mais
la colonne vertébrale
il
de
l'a
la
dit
ville.
Hier, c'est une, quand on a des difficultés, comme on vit présentement avec les tarifs aux États-Unis, on se rabat sur le développement des infrastructures.
Sur des grands travaux.
Sur des grands travaux pour motiver l'économie. J'ai annoncé ce matin qu'il va y avoir jusqu'à 80 000 emplois créés avec ça. Ça va nous créer du logement, de la densité. Donc,
il y a
vendu... Exactement.
Mais... reste que c'est pas juste ça, le développement
ben
économique. Puis les candidats, les opposants à Bruno Marchand ne prennent pas ces fenêtres d'opportunité-là.
Non, c'est ça. J'entends pas de grande vision économique de la part de Stéphane Marchand, sinon de dire ben je vais redonner de l'argent dans les poches du citoyen puis d'un commerçant, mais encore là, son cadre financier, on se pose énormément de questions. Sam Hamad nous parle de reprenariat puis d'intelligence artificielle, mais ça reste très flou. Le seul autre qui est plus terre-à-terre, c'est Claude Villeneuve en disant ben moi, c'est le commerce local que je veux développer, puis je veux développer les artères commerciales. Mais pour le reste, là, c'est du vent.
C'est plus flou un peu. Cela dit, c'est vrai que le reprenariat, c'est un enjeu qui est important.
Bien sûr.
Par contre, est-ce que vraiment c'est la municipalité qui a le plus d'emprise là-dessus? Mm-hmm. Ben, c'est de créer des environnements d'affaires, c'est de créer un contexte qui est favorable. Mais oui, ça reste que c'est pour certains candidats, la vision économique est moins développée. Pour Stéphane Lachance, je trouve qu'il y a une vision plus financière qu'économique.
En effet, t'as entièrement raison.
On coupe.
Oui, on coupe. T'as entièrement raison. Ça va plus dans le cadre des finances publiques que dans le cadre du développement économique. Je te fais entendre transport et mobilité.
La proposition que vous avancez, je le sais que votre argument, c'est de dire qu'avec l'enquête origine-destination,
oui.
ça a reculé un peu. Mais ça... si vous aviez été ministre des Transports, vous sauriez que le transport en commun, son achalandage augmente tout le temps dans le temps. Mais en fait, c'est vrai, vous avez été ministre des Transports, mais vous n'avez pas appris ça. Donc, on va arriver à saturation dans l'air.
L'insulte.
Et votre projet ne prévoit pas aucune...
Mais vous, là, vous n'avez jamais été nulle part dans le ministère, aucun ministère de votre vie.
J'étais avec Pauline Marois, j'en suis très fier.
Ah oui, mais vous étiez derrière. Mais quand un jour, vous allez avoir une responsabilité dans votre vie raisonnable, vous pouvez parler et comparer. Enlevons ça. On va revenir à la réalité. Vous, là,
donc, Monsieur Hamad,
vous avez 10 élus, quand vous êtes élu, vous en avez 10, vous avez fini avec 2.
OK, on est rendu loin de la mobilité. Vous allez là, Monsieur Hamad, voulez-vous qu'on parle de votre candidat dans ce sacrement aujourd'hui?
Moi, j'ai entendu.
Si vous voulez parler de ça, ça va être ça. On va avoir beaucoup de plaisir, j'en aurai plus que vous.
Excuse-moi.
Mais reste que votre proposition, elle omet. On va ramener sur la mobilité. Vous n'avez aucune solution.
Reste 20 secondes, 20 secondes.
Vous arrivez à saturation, répondez-moi là-dessus. Quelle est votre solution?
Le réseau structurant, là, c'est comme le sang dans nos veines, OK? Puis le tramway, là, c'est comme se payer contre notre volonté une opération à cœur ouvert pour se faire injecter un caillot. Ça veut dire que, comprenez-vous? OK? C'est
Madame
ça, là.
Smith,
on est en train
Madame
de payer.
Smith, 5 secondes.
On est en train de payer pour se créer des problèmes. Je vous le dis, Madame Smith, là, un jour, c'est sûr, on va foncer dans le mur avec ce projet-là. Puis on se souviendra
d'accord.
de ce qui s'est passé ici. Donc, il faut y penser
d'accord.
comme il faut.
Il y a certains de vos candidats dans leur porte-à-porte qui disent qu'ils vont optimiser le RTC puis après faire le SRB. Mais généralement, quand je vous entends, vous dites le SRB, c'est immédiatement. Pourriez-vous juste me dire dans quelle direction
merci
vous
de me donner l'occasion.
Ouais.
En fait, le RTC est 9e
sur 10.
Oui, mais le RTC actuellement est classé parmi les sociétés de transport au Québec 9e sur 10.
9e sur 10.
C'est une honte. Monsieur Marchand doit avoir honte aujourd'hui d'entendre ces chiffres-là. Nous, on va travailler la gestion de l'RTC, on va geler l'embauche, on va couper du personnel dans l'administration et on va rendre la société de l'RTC parmi les meilleures. Ça, c'est l'élément essentiel pour avoir un meilleur transport. Tantôt, il disait qu'on augmente... Monsieur
Marchand,
je vais
juste répondre parce que c'est une question que je vous ai posée.
Vas-y.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Le SRB, le faites-vous maintenant ou vous le faites après avoir optimisé le RTC?
La première journée, nous sommes élus,
okay.
on arrête le tramway,
donc,
puis on embarque dans les services.
Passez le message à vos candidats, parce que c'est pas ça qu'ils disent en passant, en faisant du porte-à-porte.
Ça, c'est un cheap shot de Stéphane Lachance. Ça, j'ai beaucoup de gens de l'équipe de Sam Hamad qui m'ont écrit après pour dire okay, « mais il n'y a personne qui dit ça. Pourquoi il sort ça en
mais
débat? »
Mais ça, c'est quelque chose que tu peux pas vérifier. Tu lances dans un débat.
C'est ça.
Et là, sur le coup, tu dis « mais de quoi parle-t-il? » Et tu peux pas vérifier. Ça me fait penser à un débat en 2003. Là, ça fait longtemps, vous allez me dire, mais Bernard Landry qui s'était fait lancer par Jean Charest, que Jacques Parizeau aurait dit quelque chose. Puis là, tu n'as aucun moyen pendant le débat de vérifier. C'est tannant, ça.
Il a changé, justement. Il a changé le cours de cette élection-là, Jean Charest, par la suite.
Il y a
un
très bon documentaire là-dessus qui s'appelle « À hauteur d'homme » pour les geeks de politique.
Ah, je vais aller écouter ça, c'est certain. Pour ce qui est du débat sur la mobilité, bien évidemment, on a parlé énormément de tramway. Avec la citation d'Anne Guérette, ceux qui ont manqué Anne Guérette sur nos ondes ce matin.
C'est dégueulasse. Excuse-moi, là, mais je sais pas s'il y a des gens qui ont peur du sang à la maison, là, mais l'image du caillot m'a troublé.
Vraiment.
Mais en entendant cette citation-là, je me suis posé la question, est-ce que Anne Guérette a tellement peu d'attention médiatique qu'elle s'est dit « j'ai pas le choix de sortir
c'est
une citation qui sort tellement... »
Quelque chose
d'imagé. C'est ça, tellement d'imaginaire, tellement que personne s'y attend, que là, je vais en avoir de l'attention médiatique, puis au moins, on va connaître ma position sur le tramway.
Sa citation a fait la cote. Elle a fait la cote dans notre résumé. J'ai lu dans les articles de journaux aussi, ça a été repris.
Tu as entièrement raison, elle a réussi son coup. Pour ce qui est du reste, on avait 3 pro-tramway, 3 anti-tramway. Dans les anti-tramway, seulement un qui propose un plan de mobilité, c'est Sam Ahmad avec le SRB. Je le redis, je sais que je suis à contre-courant d'une radio privée à Québec quand je dis ça, mais guys, ça va en prendre un réseau de transport structurant. Je parlais avec les gens hier, on est rendu à tout près de 700 000 habitants dans la région de Québec. On va taper le 1 million en 2040. Faites des recherches partout, toutes les villes qui ont 1 million d'habitants et plus ont un réseau de transport structurant, et ça, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on ne peut pas passer à côté. Le tramway à l'heure actuelle, moi, j'en veux plus. Ça aurait pris le réseau structurant au complet, c'est-à-dire le plan cité au complet, parce que c'est pas vrai qu'avec seulement ce 19 km-là, on va venir répondre à ce besoin-là d'un million.
T'as raison, mais on a un enjeu d'acceptabilité et de finances, évidemment. Moi, je me dis, à un moment donné, est-ce qu'on est mieux de commencer par un petit morceau, puis après ça, le reste se greffe autour? Je trouve que la stratégie d'y aller peut-être un peu moins gros est bonne. Et tu disais que les autres n'ont pas de plan, mais Anne Guérette a quand même un plan. C'est juste que...
Essayez de nous l'expliquer un matin.
Oui, c'est ça. C'est juste
pont,
que...
Un pont,
un
tunnel, 34 km, ça va coûter 7,6 milliards. C'est parce que le troisième lien va coûter 7,6 milliards.
Écoute, elle est très optimiste. On parlait de rêve tantôt, là, dans le débat. Bon,
c'est ça.
Mais puis, je te suis sur ça, Jeff. Je veux dire, c'est la région métropolitaine de Québec qui... En 2040, 1 million d'habitants, c'est la plus grande croissance démographique dans les grandes villes du Québec qui est annoncée par l'Institut de la statistique du Québec. Réalistiquement, une région démographique à 1 million d'habitants, faut un transport structurant, puis faut un troisième lien. Puis moi, je le dis toujours, arrêtez de mettre les deux projets en opposition. Quand t'as un million, on parle d'un million, on n'est plus dans les 300, 400 000, là, on parle d'un million d'habitants. Quand t'es rendu à ce nombre de personnes-là qui habitent dans ta région métropolitaine, faut des projets d'envergure pour ton développement. Puis ça, ça passe à la fois par des liens autoroutiers que par du transport structurant.
La différence entre le tramway et le troisième lien, moi, je suis favorable aux deux. C'est juste que le tramway, on a un projet qui est prêt.
Oui.
Et le troisième lien, on n'a jamais vu un projet qui tenait debout. Donc, on veut bien. Moi, je suis pour. C'est juste que j'aimerais ça qu'on me dise le trajet, ça va être ça, ça fonctionne. On est capable techniquement de le faire. Mais le dernier trajet qu'on nous a présenté, tout le monde est contre, puis on pense que ça fonctionnera pas. Donc, bref, on va pas attendre après le troisième lien pour faire le tramway. Mais moi non plus, je suis un peu tannée d'entendre les gens s'opposer là-dessus, comme s'il fallait prendre son T-shirt pro-tramway ou son T-shirt pro-troisième lien. On est pro-mobilité, puis on est pro que Québec devienne une ville moderne qui est à la hauteur du nombre d'habitants qu'on a dans la région.
On a des belles réactions par texto. Il faudra optimiser le RTC et le rendre efficace à son maximum avant d'ajouter un tramway. Entièrement d'accord, et ça fait partie du plan avec le tramway, justement, d'optimiser le RTC. C'est dans les cartons de modifier des lignes, justement.
C'est que les gens voudraient qu'on fasse un avant l'autre.
Mais les deux vont ensemble.
Ça va aller ensemble.
C'est ça, les deux vont ensemble. C'est prévu dans le plan de tramway. Puis c'est prévu dans le plan SRB de Sam Ahmad aussi, soit dit en passant. Christian qui nous écrit, ouais, d'accord, mais ça nous prendrait peut-être quelque chose plus réaliste, plus faisable dans un court délai. Mais ben, Christian, c'est exactement ce que Sam Ahmad propose avec le SRB. Donc, tu as un choix de candidat à la mairie si tu veux aller vers ce choix-là. Et puis, le 2 novembre prochain, est-ce que nous allons voter pour un conseiller et pour un maire? Est-ce qu'il y aura deux votes à faire?
Oui.
C'est comme ça que ça fonctionne, les élections municipales. Puis moi, je sais déjà pour quel conseillère je vais voter dans mon coin. puis je suis encore à penser pour quelle maire ou mairesse je vais aller voter.
Vous n'êtes pas obligé de voter pour le même parti, pour votre conseiller et votre maire.
Exactement.
Vous pouvez être stratégique, vous pouvez aimer deux partis, puis des personnes de manière plus individuelle. Vous pouvez voter pour deux partis différents pour votre conseiller ou le maire-mairesse.
On y va avec un débat qui était très important à mon égard, c'est le logement, parce que oui, on est en pleine crise du logement partout au Québec, partout au Canada. Ça a été un enjeu de la dernière campagne fédérale. Donc, on écoute ce que les candidats avaient à dire par rapport à cet enjeu très important.
Si on ferait un calcul simple, là, 100 000 logements en 180 mois, ça veut dire 555 logements par mois à tous les mois pendant 15 ans. Pensez-vous vraiment que le monde de Québec sont capables de comprendre ou de croire que ce que vous promettez, c'est pas un miracle? Pensez-vous vraiment qu'on est capable de faire 555 logements par mois à tous les mois pendant 15 ans? Vous allez trouver où la main-d'œuvre? Il va se passer quoi avec les infrastructures? Comment les infrastructures vont suivre? C'est beau, là, de promettre des mirages, là, dans toutes sortes de niveaux, mais... Allez-y, répondez-moi là pour me dire vraiment comment vous allez faire pour construire autant de logements tous les mois pendant 15 ans.
On va faire ce qu'on fait actuellement depuis plusieurs mois.
Oui, c'est combien?
Bien, c'est ce qu'on a présentement. On va dépasser 5 000 cette année. On va dépasser 5 000 en 2025. Ça va être une année record. À part 2021, on n'a jamais fait 120 ans.
Ça, c'est l'exemple idéal. Je demanderai votre opinion. L'exemple idéal, Bruno Marchand, maire d'une ville qui est tout est bloqué, les permis, ça prend du temps. Et là, on arrive aux élections, il y a nouveau Bruno Marchand qui est en élection, ils travaillent un contre l'autre. Là, ils donnent des permis. Voyez, regardez qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites la vérité.
C'est intéressant ce que vous dites, M. Hamad, là.
Bien sûr.
Peut-être à un moment donné, je peux prendre les conseils de Mme Forger et vous pouvez me montrer comment faire du golf.
Là, c'est important ce qu'il vient de dire là, parce que quand on parle d'ouvrir le périmètre urbain, on parle d'étendre notre territoire davantage, ce qui est autant d'un point de vue écologique, environnemental, mais aussi d'un point de vue économique pour les finances publiques des villes, la pire affaire, là, parce que là, ça force à étendre nos infrastructures et les envoyer plus loin, puis prévoir justement plus de routes à déneiger, plus d'égouts à passer, tout ça. Cela étant, moi, ce qui me fascine, M. Lachance, c'est quand on regarde, c'est quoi les sujets là, du moment, là, le zeitgeist, là, qu'est-ce qui intéresse les gens où on se parle. J'ai lu votre carnet de route, puis il y a des très bonnes idées là-dedans, puis vous l'avez déposé tôt, mais je ne peux pas croire qu'en 2025, alors que ça va être des principaux sujets de cette élection-ci, et ça va être un des principaux sujets de l'élection provinciale l'an passé en 2026, dans votre carnet de route, il n'y a pas une seule référence, une seule mention, une seule évocation du logement social. Il n'y a absolument rien dans votre plateforme pour la construction de logements sociaux, communautaires, logements abordables. Comment, en 2025, vous pouvez vous présenter devant les gens avec une plateforme dite sérieuse en n'ayant aucun propos à propos de la construction du logement social?
Je pense que ça a été une des bonnes interventions du débat, celle-ci de Claude Villeneuve. Puis c'est pour ça que je l'ai mis dans son entièreté. C'était face à Stéphane Lachance où il disait « Vous avez justement dans votre cahier pour le logement, vous n'avez rien sur le logement social. Vous parlez d'étendre le périmètre urbain. » Donc, étendre le périmètre urbain, c'est quoi? Bien, c'est créer des nouvelles infrastructures en eau, en égout.
En route,
en etc. Déneigement. En déneigement. Alors, c'est quoi ça? C'est des coûts additionnels. Et Stéphane Lachance propose de couper dans les dépenses de la ville.
Oui, mais c'est magique, là.
Oui, mais c'est ça, ça ne va pas ensemble. Et rien pour le logement social aussi, alors qu'on est en pleine crise d'itinérance. D'ailleurs, petit conseil aux opposants de Bruno Marchand, parce que je sais qu'il va y avoir d'autres débats. Logement, il n'y en a pas un qui a mentionné le mot itinérance. Pouvez-vous parler de la crise de l'itinérance, s'il vous plaît? C'est un enjeu majeur, puis c'est un enjeu avec lequel, et il n'est pas le seul responsable, la CAQ également, mais avec lequel Bruno Marchand nous avait quand même promis des solutions miracles avec itinérance zéro, puis il n'a pas livré. Fait que s'il y a un enjeu sur lequel vous pouvez frapper, c'est là. L'autre chose, il y a eu deux Bruno Marchand dans la dernière année, dans les quatre années de son mandat. Les premiers deux ans où c'était difficile en création de logement. En 2023, c'était moins 40 % par rapport à la dernière année du mandat de Régis Labeaume. Quand cette statistique-là est arrivée, là, j'ai vu un Bruno Marchand se mettre en marche. OK, on va délivrer les permis plus rapidement. OK, on va changer nos façons de faire. OK. Et là, il s'est accoquiné avec France-Hélène Duranceau, puis bang, il y a eu ce boom-là. Et c'est sur ce boom-là qu'il surfe. Mais vous pouvez aller creuser dans ces années-là aussi.
Ben oui.
Vous pouvez aller voir. Et ça se fait pas. On reste en surface. On reste encore avec le tramway, la mobilité. Je suis très déçu des opposants de Bruno Marchand à l'heure actuelle.
Oui, puis on en jase souvent depuis le début de la campagne, puis t'as raison. Dans le sens que les enjeux restent en surface. On est beaucoup dans des slogans. Puis ça dépend des candidats. Là. Puis effectivement, oui. on en parlait, Claude Villeneuve a fait une bonne intervention. C'est sûr que quand tu es chef d'opposition pendant 4 ans, les dossiers, tu les suis au quotidien avec attention, alors que les candidats qui arrivent un petit peu plus de l'extérieur, bien, ils ont un rattrapage à faire. C'est pas des énormes équipes non plus de recherche au niveau municipal, hein, parce que...
Ouais, je le sais.
Puis là, tu sais, je fais le parallèle avec ta manière de travailler. Je travaille avec toi depuis quelques semaines. C'est pas tout le monde, évidemment, qui est comme ça. Il y a beaucoup d'élus et de candidats en politique qui se reposent sur leurs équipes et qui s'attendent à ce que leurs équipes leur montrent des dossiers, puis qui vont pas nécessairement eux-mêmes être hyper zélés puis aller tout lire nécessairement. Puis c'est vrai que derrière les communications, c'est vraiment important. Mais si tu n'as pas compris le fond de l'affaire, puis si tu n'as pas toi-même poussé puis réfléchi à ça, là, bien, tes lignes de communication, elles vont sonner vides. Alors que c'est correct d'être capable de bien résumer un message puis de le synthétiser. Là, dans un débat, tu ne peux pas parler
t'as
pendant
pas le choix.
Une demi-heure. Mais il faut que tu aies compris le fond en arrière de
c'est
tout
ça. Et j'ai l'impression, justement, que les nouveaux venus, puis là, je le dis, c'est une impression, mais un Sam Hamad, un Stéphane Lachance, je vais mettre Anne Guérette là-dedans, même je la considère pas beaucoup dans la course, ils n'ont pas fait leur devoir. Ils n'ont pas pris la peine de regarder ces éléments-là. Donc, ils arrivent en débat, puis là, ils sont très en surface. Ils sont très messages communicationnels.
Claude Villeneuve a été identifié comme celui qui a le mieux performé
hier. Ben oui,
hier.
Parce que lui le connaît, puis je sais qu'il a eu l'avantage d'être 4 ans
absolument.
Au niveau d'être chef d'opposition. Mais si tu te lances dans la course à la mairie, si tu veux qu'on te considère comme un futur maire, faut que tu arrives prêt. Faut que tu me démontres que tu as du sérieux. Et c'est ce que je ne vois pas à l'heure actuelle. Puis je veux pas refrapper dessus, mais un gars comme Stéphane Lachance qui dit on va étaler le périmètre urbain, ben il le fait parce que c'est juste parce qu'il veut pas te créer de réseau de transport structurant. Parce que sinon, il densifierait la ville. Densifier la ville, ça vient que réseau de transport structurant. Je veux pas de réseau de transport structurant, je vais étaler le périmètre urbain. Si j'étale le périmètre urbain, je peux pas promettre 150 millions
ben
de coupures de dépenses.
De toute façon, tout le monde le dit, les urbanistes le disent, tous les experts le disent, l'étalement a ses limites à un moment donné, puis les taxes que tu vas aller récolter, c'est pas suffisant pour, après ça, entretenir tout ce que tu as à entretenir comme infrastructure, surtout que nos infrastructures dans toutes les municipalités sont déjà vieillissantes et juste les entretenir, ça coûte extrêmement cher. Donc, ça ne tient pas la route de reposer ta vision du développement de la ville uniquement sur de l'étalement.
Non. Bon, on parle d'un autre groupe qui s'entend pas, parce que là, il y avait des politiciens qui s'entendaient pas. Non, qu'est-ce qui se passe avec les médecins et notre gouvernement, Antonine? Dis-moi ça.
Écoute, je te fais ça vite, là, parce qu'il y a une médiation qui est en cours.
Ouais.
Il
n'y
a pas grand-chose qui coule ou qui ressort de ce qui se passe dans la médiation, mais ce qu'on a appris hier, c'est que le médiateur mettait une pause à la médiation, nous expliquant avec les deux fédérations de médecins, là, les médecins spécialistes et les médecins omnipraticiens, que c'était très difficile de trouver, disons, des rapprochements entre les parties. Donc, on est encore très, très loin. La médiation, ça sert à débloquer certaines choses. C'est comme une partie qui est neutre, qui va aller essayer de débloquer les négociations. Bien, c'est pas encourageant. Les négociations ne sont pas débloquées. La FMOQ là, qui continue à appeler à se tourner vers un arbitrage. En quoi c'est différent un arbitrage? C'est que c'est exécutoire. C'est-à-dire que l'arbitre va décider à un moment donné quelque chose et il tranche. Et là, c'est ça qu'il y a dans l'entente.
Exactement. Ça veut dire, voici votre nouvelle entente, c'est fait. Le gouvernement n'en veut pas parce que ça ne passerait pas par un projet de loi. Est-ce que j'ai bien compris?
Le gouvernement n'en veut pas parce qu'il veut vraiment s'attaquer à la rémunération et il veut s'assurer de garder un peu le contrôle sur les gains qu'il pourrait faire. Le projet de loi 106 est en pause présentement. Le projet de loi 106, c'est celui qui impose par voie législative des indicateurs de performance aux médecins qui sont liés à une partie de leur rémunération. Et ça, les médecins ne le prennent pas du tout. Ils le voient comme un gun sur la tempe, là, carrément. Et c'est aussi là, ce qui explique le ton très, très acrimonieux en ce moment entre les partis. Et de l'autre côté, tu as les médecins qui font des moyens de pression que le gouvernement dénonce. Bref, tout le monde dénonce tout le monde. Tout le monde veut garder son levier de négociation. Mais pour le patient, là, québécois, en ce moment, c'est pas très encourageant.
Non,
ce
c'est
voit,
ça, exactement. Donc, on est vraiment dans un... on est vraiment face à deux chemins complètement différents et on s'en va dans le mur avec ça, on s'en va
écoute,
où?
Le gouvernement est devant le choix suivant, soit qu'on se tourne vers l'arbitrage ou soit qu'on reprend l'étude du projet de loi 106 et on fait avancer ce projet de loi-là. Je veux rappeler aussi que le gouvernement a l'intention d'inscrire de force des patients sur les listes des médecins.
Oui, c'est ça.
Mais là, ça, je veux dire, ça fonctionne pas, là. Parce que, je veux dire, quand même, vous êtes inscrit dans une clinique. Le médecin, s'il n'a pas le temps de vous voir...
Il n'a pas le temps de vous voir.
Il n'a pas le temps de vous voir, là. Fait qu'il y a des choses à faire. Mais Christian Dubé est reconnu pour, des fois, donner un coup de barre dans quelque chose, sachant que le reste ne fonctionnera pas ou va fonctionner sur des roues carrées pendant un bout de temps, mais pour provoquer ce changement-là. Mm-hmm. Il l'a fait avec les agences de placement de personnel médical, infirmière,
oui,
notamment.
Oui, évidemment, ça n'a pas été la catastrophe appréhendée.
Ça dépend des régions, par contre. Oui. En Côte-Nord, ça n'a pas été particulièrement facile, mais ça oblige l'intendance à suivre après. Mm-hmm. C'est-à-dire, regarde, c'est ça qui est ça maintenant. Alors là, tous les morceaux se remettent en place. Ça se fait pas sans heurts, mais on dirait que c'est un petit peu sa manière de fonctionner à Christian Dubé. Dit, tant pis, on y va, parce que sinon, c'est comme, ben non, on peut pas changer ça, parce que sinon, il faut changer ça. Mm-hmm. Ah ben ça non plus, on peut pas le changer, parce que sinon, ça faut... Ben, gars, changeons une affaire, puis après ça, le reste, on va être obligé de le faire. Donc, c'est un peu ça, l'approche de Christian Dubé. Christian Dubé, politiquement, il a réussi à garder la faveur de la population pendant très longtemps, alors que son gouvernement est dans la chenoute depuis très, très longtemps, mais ça ne lui colle pas à la peau.
En effet.
Mais là, si les résultats commencent pas à apparaître en santé, c'est sûr que c'est un peu son legs, puis ce qu'il va laisser comme impression à la fin de son mandat qui est affecté. Donc, il en fait pratiquement une affaire personnelle. C'est correct si l'objectif, c'est en bout de ligne que les patients récoltent les fruits de tout ça. Mais tu sais, je te dis en conclusion sur ce sujet-là que je trouve que la CAQ, en ce moment, qui essaie absolument d'aller chercher des points dans les sondages, d'aller chercher des gains, des fois, je me dis, attention, là, tu sais, est-ce qu'on va faire des choses de manière précipitée, très populaire politiquement, mais les faire un peu tout croche pour, tu sais, comme, mettons, faut que tu vendes ta maison, puis là, tu repeintures des affaires par-dessus de la pourriture, là. non, tu sais.
Ouais, puis tu sais, je vais être plate, mais anyway, peu importe ce qu'ils vont faire dans la dernière année, ça me surprendrait que le sondage remonte à 30 %, tu sais, on s'entend.
T'es pas optimiste.
Ouais, je suis pas optimiste du tout. Puis... Christian Dubé, à l'heure actuelle, avec les médecins, se colle beaucoup sur le discours de François Legault. François Legault, qui est le politicien le plus impopulaire au Québec.
Mais c'est ça, casser les carcans, la camisole de force, etc. On s'attaque aux syndicats, qui sont pas seulement les syndicats des médecins, mais tous les syndicats. T'sais, à un moment donné, à force de vouloir être populaire, faites attention aussi de ne pas briser des équilibres. En tout cas, bref, c'est que t'sais, les projets de loi, ils cheminent. Ils font l'objet d'une étude. Il y a des groupes qui viennent s'exprimer. Il y a une raison à ça, hein, pourquoi on peut pas faire des affaires en deux minutes dans la vie. C'est parce que souvent, les projets de loi, ils peuvent être améliorés. Les politiques, il y a des effets pervers qu'on n'avait pas vus puis qu'on peut mitiger si on prend le temps de faire bien les choses. La CAQ est pressée, c'est correct, mais il ne faut quand même pas perdre de vue en bout de ligne que c'est le bien des patients qui... Et aussi le bien des employés du réseau de la santé. Là, c'est pas facile de travailler dans
non,
le réseau de la santé.
Non, on n'a pas trop d'employés. Puis c'est le processus démocratique, hein, les commissions parlementaires, pour justement adopter les projets de loi. Et si la CAQ est en pressée, c'est parce que pendant 7 ans, ils n'ont pas livré les résultats. Ben, fait que shame on you, qu'on dit, bon français. Hey, parle-moi donc des belugas. Tu m'as parlé des autruches l'autre jour. Parle-moi,
exact.
Qu'est-ce qui se passe avec nos belugas à Maryland? Moi, je suis allé 3-4 fois dans ma vie à Maryland. Il se passe quoi avec les belugas là-bas?
Moi, je suis jamais allé à Maryland, OK? Puis quand moi, j'aime beaucoup les animaux. C'est pour ça que je plug des fois des sujets sur les animaux.
Ben oui!
Mais un jour, j'ai appris que les mammifères marins sont extrêmement malheureux dans des parcs.
Mais tu sais quoi, la journée où j'ai appris ça, je ne suis plus jamais retourné à Maryland.
J'ai vu un documentaire à un moment donné sur c'est bien le fun d'aller nager avec les dauphins quand tu vas dans le sud. Une fois que tu vois comment ils sont traités puis comment ils vivent beaucoup moins longtemps que dans la nature, dans des piscines chlorées avec des filtreurs à eau qui les rendent complètement fous, ils deviennent agressifs les uns envers les autres. Bref.
Là, je tenais à faire la rectification comme quoi j'avais arrêté d'aller à Maryland une fois que je l'avais su, parce que les yeux que tu m'as fait quand j'ai dit que j'étais allé à Maryland, j'ai dit oh,
mais
je suis
sont
dans le trouble. Ben, c'est comme. Non, c'est ça. J'ai dit là, je suis dans le trouble. Antonine va dire il est de la marde, Jeff.
Ben non. Mais tu sais, aussi, il y a des affaires qui datent d'une autre époque dans la vie. Là, les choses évoluent.
Ouais, puis Maryland, c'était resté à l'autre époque avec le béton. Là.
Ben, c'est ça. C'était pas toujours glorieux à une certaine époque.
Non.
Ceci étant dit, le parc, un des parcs Maryland qui se trouve en Ontario ferme. C'est plus aussi populaire pour les raisons qu'on vient d'évoquer.
C'était tellement vieillissant.
Et il y a aussi une législation là, qui est passée en 2019 qui interdit un paquet de choses concernant les cétacés, notamment leur vente et leur exportation. Or, Maryland ferme. Là, il y a un paquet de belugas et de dauphins là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec des belugas et des dauphins quand un parc marin comme ça ferme? Donc, la question se pose.
C'est ça. On les envoie où? Parce que ça ne doit pas être évident à transporter.
Mais tu peux pas juste comme mettre ça dans un camion puis envoyer ça dans l'estuaire du fleuve. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, c'est ça.
Donc, il y a un parc marin chinois qui a offert de les acheter. C'est cétacés-là. Demande-moi pas comment ils vont les faire transporter jusque là-bas, mais ça doit être dans un bateau, j'imagine. Cela étant dit, c'est interdit depuis la loi qui a été adoptée.
Everybody loves marine.
On l'a pas en français, hein?
Ah, oh, je vais aller la mettre en français.
Mais sinon, je t'achante, là, ça va être terrible. Changez pas de poste. Tout le monde aime Marineland.
Continue, on envoie ça.
Il y avait la parodie dans BO aussi. Se faire licher la face par une grosse baleine. Fait que là, qu'est-ce qui se passe?
On envoie ça où? Qui est fâché?
Premièrement, les gens qui sont pour la défense des animaux sont tous très fâchés. Parce que là, une fois que Pêche et Océan Canada a dit à Marineland, non, vous pouvez pas envoyer vos baleines en Chine, parce que c'est interdit depuis 2019, mais Marineland a dit, parfait, on va les euthanasier. Nous, on n'a plus d'argent. Ouais, on n'a pas d'argent, nous autres, pour entretenir ça.
Mais là, on ne peut pas euthanasier ces baleines-là.
Ben, c'est ça.
Là, j'aime plus Marineland.
Quel jingle, quand même. Non, personne aime Marineland depuis qu'ils ont dit qu'elle a euthanasié les baleines.
Ben voyons. Puis là, comment ça va finir? Ça peut pas finir de même.
Là, le gouvernement a dit, voyons donc, vous allez pas euthanasier des baleines. Donc, ils disent, donnez-nous de l'argent. Vous allez vous en occuper, vous autres, des baleines maintenant. Le gouvernement est comme, voyons donc, on est à s'occuper de ces baleines-là. Vous êtes responsable de ces cétacés.
Parce que c'est eux, Marineland, qui les avaient achetés.
Exactement. Donc là, il y a une autre option qui a été mise sur la table, c'est de les envoyer en Nouvelle-Écosse. Il y a un sanctuaire qui est en préparation, mais qui ne serait pas tout à fait encore prêt. Donc, ce ne sera pas possible.
OK.
Donc, bref, ça continue de se lancer la balle, continue de suivre cet enjeu-là.
On va suivre ça, certain.
Mais qui va payer pour ça? Tu sais, c'est... Puis là, attention, parce que c'est le fédéral qui gère les baleines au Canada. Ouais. Parce que ils ont l'expertise, les biologistes sont chez Pêche et Océan Canada. Mais est-ce que ce parc-là est en Ontario? Est-ce que ça va rebondir au gouvernement ontarien puis que là, les gens vont mettre la pression pour que ce soit le gouvernement qui commence à payer pour qu'on ne tue pas les pauvres belugas qui n'ont absolument rien demandé dans cette histoire-là?
Bien, c'est ça. En passant, eux autres, ils ont juste demandé à vivre leur vie en nature, puis on les a capturés, puis on les a amenés à Marineland.
Pour les faire sauter, puis...
Pour que ça soit impressionnant, dans l'amphithéâtre qui avait été bâti en béton en 1972 et qui n'a jamais bougé. Là.
Écoute, ça me fait tellement passer au zoo de Québec quand j'étais petite, là, avant qu'ils en fassent quelque chose de cute. Là. Il y avait des animaux là, sur des dalles de béton. Là.
C'était
tellement déprimant. J'ai des photos des années 80 de moi, genre à 2 ans, devant des cages. Là. C'est épouvantable.
L'ours n'était pas heureux au zoo de Québec, là, mais non. Pas pantoute.
Ben, c'est ça. Fait que c'est pareil pour les cétacés qui se retrouvent dans ces parcs-là, mais à suivre, qu'arrivera-t-il avec les belugas?
Ça va être à suivre, ce dossier Marineland. Tu vas nous tenir au courant, certain, Antonine?
Oui, je vous tiens au courant.
Excellent. Après la pause, on fait un tour de nouvelles avec Mathias Turcotte et également, on va parler du débat qu'on aura des candidats à la mairie de Lévis, ici même sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission On en jase. Ça sera un débat le 21 octobre prochain, avant de passer à la pause. C'est vrai, j'allais oublier. On vous gâte. Par texto, 418-971-1021. Est-ce que t'as le goût d'aller voir le spectacle d'Offspring au Centre Bell le 21 février 2026 dans le cadre de la tournée Supercharge Worldwide 2026 avec comme invité spécial Bad Religion. Cette semaine, soyez à l'écoute de Boulevard 101. Vous pourriez gagner votre paire de billets, ça tombe bien. J'en ai deux à faire tirer directement là. Donc, 418-971-1021. On va faire un gagnant et c'est très simple. Vous devez écrire votre chanson préférée de l'album Smash de Offspring, la première cassette qu'Antonine Iaccarini s'est achetée et que Jeff Fortin aussi. Fait que vous n'avez pas le choix. Allez-y, mentionnez-moi votre chanson préférée de l'album Smash au 418-971-1021. Et parmi tous les gens qui vont participer, on fait tirer une paire de billets pour le 21 février 2026 au Centre Bell. Courte pause, on revient avec l'essentiel de l'actualité. Et la campagne électorale ne se passe pas juste à Québec, elle se passe également à Lévis. On en parle. Il est exactement 12h46. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase. On jase de plein de choses, évidemment. hors d'onde également. Puis je veux féliciter Jean-Sébastien. Quand t'es notre gagnant, mon Jean-Sébastien, je suis en train de finir de t'écrire le texto. Tu vas aller voir The Offspring le 21 février 2026. Tu iras avec la personne de ton choix et tu vas pouvoir aller triper bien raide. Moi, si jamais je gagnais des billets, là, je pense que je serais obligé de dire à Val qu'elle viendrait pas avec moi.
Hein?
Hein? J'amènerais mon ami Tommy! C'est avec lui que j'ai écouté mon Offspring dans mon jeune temps d'adolescence. Mais c'est pas Val dans ce temps-là.
Oui, mais Val, elle aimait pas ça, Jeff.
Ben oui, elle aime son bout.
Mais Jeff, tu vois, ça, c'est le genre d'affaire que t'es pas obligé de dire en non.
Mais non, mais c'est pas grave, parce qu'il est midi 47, Val est présentement au gym.
Okay. C'est ça, c'est le moment.
Il choisit ses moments. Hein?
Faut profiter du moment qu'on dit... Hey, faut être stratégique dans la vie, les amis. Faut être très stratégique. OK, à la météo, on change de sujet.
Ça pas d'allure.
On dirait que je viens de faire du Marceau quand il est pris au piège. Faut que je change de sujet de même. OK.
Bon.
15 degrés alternance soleil et nuage. 11 degrés généralement ensoleillé en ce jeudi. 14 degrés ensoleillé pour vendredi. À long terme, on annonce une super fin de semaine de 17 et 16 samedi et dimanche. Donc, du beau temps, mes amis. Est-ce que les nouvelles sont belles, Mathias? Comme le beau temps?
Bon, c'est rare des nouvelles belles, mais elles sont pas si pires. On a déjà le pire, on va dire comme ça. C'est quand même une journée pas si mal. Là. Par contre, il faut que je commence avec une nouvelle un peu moins positive. C'est un quatrième incendie criminel sur une voiture qu'on a vu en moins d'une semaine dans la région de Québec. C'est la police de Québec qui ont été obligés d'intervenir et maintenant d'investiguer pour un incendie qui a eu lieu dans Saint-Roch cette nuit sur justement une voiture. Donc, ça commence à se multiplier. Ça devient un phénomène de plus en plus inquiétant dans la région.
En effet.
Le gouvernement Legault prévoit de modifier unilatéralement la Constitution canadienne pour y inscrire le caractère laïque de la société québécoise, comme il l'a fait pour le français en 2021. L'annonce a été faite aujourd'hui. Donc, le nouveau projet de Constitution québécoise prévoirait justement cette modification-là, ce nouvel amendement-là à la loi constitutionnelle de 1867. On retourne en 2021, ça s'était fait lors de la réforme de la loi 101. On avait indiqué, les Québécoises et les Québécois forment une nation, le français est la seule langue officielle du Québec. Il est aussi la langue commune de la nation québécoise. Donc cette modification-là avait été apportée à la loi constitutionnelle de 1867. En 2021, sous l'accord du premier ministre Justin Trudeau. La question qui se pose, est-ce que Ottawa aura la même attitude au sujet d'un ajout sur la laïcité par rapport aux modifications de la Constitution canadienne? Ça promet d'être un peu plus difficile du côté du Québec de convaincre le gouvernement fédéral.
Antonine, t'es prête? On a eu l'heure et grave de Ruba Gazal hier et là, on a la Constitution 101 de Simon Jolin Barrette.
Au cours des prochains jours, nous présenterons un projet de constitution du Québec. Une constitution, c'est la loi des lois.
Main sur le cœur,
elle
les amis,
regroupe en un seul et même document tous les principes et fondements d'un État. Hein? La constitution du Québec aura trois grands objectifs. Protéger nos valeurs, nos droits et notre identité.
Ça respire l'espoir.
Renforcer notre autonomie et nos institutions. Et rassembler les Québécois autour d'un symbole d'affirmation nationale.
Je me sens
au Québec, ce projet est réclamé depuis près de 200 ans, mais ne s'est jamais concrétisé. C'est à nous que revient l'honneur de le faire. Cette Constitution sera à la fois le miroir et le bouclier de la nation québécoise. Le reflet du Québec tel que nous l'avons reçu des générations qui nous ont précédés. Et comme il se doit d'être demain. Fier, fort et uni.
Fier, fort et uni.
Moi, j'aime ça, les trios de mots comme ça.
Oui, hein? C'est beau.
Ça marche tout le temps.
Ça marche tout le temps. C'est un beau vidéo. La CAQ aurait pu le faire, là, 7 ans. Ils ont décidé de le faire aujourd'hui.
Bon, là, 7 ans, là, on n'était pas en pandémie. Non, pas encore.
Non, pas encore. On oublie ça.
Ça s'en vient.
On oublie ça. Quand la CAQ est arrivée, la pandémie est arrivée 2 ans plus tard.
2 ans. Fait qu'il y aurait eu 2 ans avant pour le faire. Mais on était sur beaucoup de fronts, là, du côté d'identité, immigration.
Mais regarde, j'ai la main sur le cœur.
Oui, il y a toujours la main sur le cœur.
Tout ça pour dire que, pareil, c'est bien que la CAQ se lance dedans. Là, je fais bien des blagues. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est un bon geste politique.
Mais tu as raison de dire que ça arrive tard. Pas nécessairement parce que, tu sais, c'est correct aussi que toutes les affaires ne soient pas faites dans la première année qu'un gouvernement arrive au pouvoir, mais ça arrive tard parce que la CAQ est dans une situation difficile. La légitimité même du gouvernement est remise en question parce que tu es dernier dans les sondages alors que tu es premier dans le nombre de sièges au gouvernement, ça crée une distorsion. Puis une constitution, c'est pas une politique comme les autres.
Non.
C'est la loi des lois, même Simon-Jolin Barrette le disait dans son vidéo. Et les oppositions déplorent un manque de consultation parce que quand on dit on va défendre nos valeurs, mais il faut s'entendre ensemble sur...
C'est quoi les valeurs?
C'est quoi nos valeurs? Puis quand tu parles à une personne, après ça, tu parles à une autre personne. Quand tu parles à quelqu'un en région, quelqu'un à Montréal...
Oui, puis je vais juste prendre l'exemple de la laïcité. Moi, je suis très pour la laïcité. Tu es pour, Mathias est pour, mais il y a des gens dans notre société qui sont contre. Absolument. Et la preuve, la FAE va aller jusqu'en Cour suprême pour combattre la laïcité. C'est des Québécois. Donc, là-dessus, je vais reprendre ce que tu disais tantôt avec les médecins. Je trouve que la CAQ tente encore de faire trop vite parce qu'ils se sont mis dans cette position-là.
Puis l'autre élément d'analyse sur cette intention de la CAQ de faire la Constitution québécoise, c'est que pour moi, ça aide le PQ. Parce que là, on veut écrire quelque chose unilatéralement, pas facile à dire, unilatéralement.
Non, en effet.
Dans la Constitution canadienne, on l'a déjà fait, ça se fait. C'est un bon coup, ça, de Simon-Jolin Barrette à l'époque. Mais, tu sais, il y a toujours un risque que ça foute le bordel, là.
Oui.
Puis quand on fout le bordel dans la Fédération, qu'est-ce que ça vient aider comme option? Bien, l'option souverainiste.
Exactement, mais là, tu sais quoi? C'est le complot!
Oh.
François Legault est un ancien péquiste.
Hey, j'entends ça souvent.
Et pour faire la souveraineté, il s'organise en y allant avec la Constitution québécoise.
Un crypto-séparatiste, secret complotiste. J'entends ça sérieusement.
Mais je sais que ça
n'a
pas de bon sens que t'entendes ça. Là.
Je ne crois pas à ça.
Mais non, voyons donc. François Legault n'est pas dans un complot. Il n'y a personne qui est dans un complot.
Mais même s'il
n'est
pas dans
amis,
un complot, les gens disent, par exemple, je pense qu'au fond, lui, il est resté souverainiste. T'sais, les raisons qui ont fait de lui un souverainiste dans les années 90 n'ont pas disparu. Mais je pense vraiment que cet homme-là est passé à autre chose.
Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Mathias, est-ce que tu veux nous parler des contrats, les fameux contrats LGS, François Legault, la CAQ?
Oui.
Parle-nous-en de ça, parce que moi, je vais te faire entendre un petit vidéo par rapport à ça de Marois Risky.
OK, oui.
Je suis surpris d'ailleurs que la chef de l'opposition officielle soit en train de lire les clauses de chaque contrat en informatique.
100% de mon salaire est payé par les contribuables, alors 100% de mon temps est à lire ce que vous avez signé. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Jamais. On a regardé les contrats. Le gouvernement a décidé d'ajouter une clause de garantie pour LGS IBM. Peu importe ce qui va arriver, n'inquiétez-vous pas, ils seront payés. Qui a trouvé que c'était une bonne idée? Qui est imputable? Et quelles seront les conséquences?
Fait que là, Mathias, ce que je comprends, c'est que le PM, il lit pas les contrats qu'il signe, qui nous oblige à débourser 405 millions de dollars d'ici 2028 à LGS, c'est ça que j'ai compris?
Oui, exactement. Puis ça, c'est un contrat qui a été signé. Le projet devait être livré en mai 2026. Puis là, il y avait une clause dans le contrat qui disait que peu importe ce qui arrivait, le gouvernement du Québec devra verser le montant total signé dans le contrat à la firme LGS 2 ans après la date que le contrat était supposé signer. Fait que même s'il y a des retards,
ouais,
en 2028, le gouvernement du Québec devait verser de 405 millions. Ça, c'est la clause que Marois Risky parle. Je trouve ironique la réponse de François Legault parce que visiblement, lui devrait prendre plus de temps pour lire des clauses de contrat.
Mais là, excusez mon ignorance, mais c'est François Legault lui-même qui signait ça, non?
Non, probablement pas.
C'est
le gouvernement du Québec. Par contre, de répondre à Mme Risky en disant « Mme Risky, vous passez votre temps à lire des contrats », je trouve ça un peu ironique, prenant en compte que ce contrat-là a une clause qui est, on peut le dire, inacceptable pour un contrat gouvernemental, puis que ça a passé sous son gouvernement.
Non, t'as raison, mais c'est vrai que ça, c'est l'avantage de l'opposition en période de questions. Je m'excuse de sortir un peu du fond des choses, je reviens sur la forme.
Vas-y.
Mais tu sais, une période de questions, c'est le show de l'opposition. L'opposition, elle sait quelles questions elle va poser.
Le
gouvernement, il ne sait pas quelles questions elle va se faire poser. Puis tu voyais que le premier ministre a été pris de court, puis ça, quand c'est une bonne journée pour l'opposition, quand le premier ministre sort n'importe quoi, puis ça, il a sorti cette phrase-là, la députée passe son temps à lire des contrats. C'était tellement mauvais.
Mais oui, c'est vrai. Tu
sais, il veut dire, Marois Risky, elle a scoré là, un génial but. Là.
100% qu'elle a scoré face à François Legault. Stéphane nous écrit « Selon moi, la CAQ n'a plus la légitimité pour déposer une constitution à 1 an des élections. S'ils veulent en proposer une, ça pourrait être un item que les Québécois votent l'an prochain, mais juste être une proposition. » Je trouve ça très intéressant.
Une proposition électorale.
Exactement. Donc, une promesse électorale. On va faire une constitution. On termine le bloc nouvelles, Mathias, avec Donald Trump.
I think he's a great prime minister. I mean, he could represent me anytime. I will tell you, you know, I'm not saying that because no, he is a very strong, very good leader. He's a nice man, but he can be nasty. He can be very nasty. Maybe as nasty as anybody.
How?
I think Canada, let me put it this way. I can tell you this because I deal with lots of leaders all over the world. He is a world-class leader. He's a man that knows what he wants. And I'm not surprised to see that he won the election and won it substantially. And I would think he's more popular now. He's a good man. He does a great job. And he's a tough negotiator.
OK, Mathias, approche-toi. Je vais te flatter le dos un peu.
Viens-t'en, Jeff.
Beau puis fin, mon Mathias. T'es donc ben exceptionnel et bon, mais donne-moi 35% de ton salaire, s'il te plaît.
Non, mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'au moins, hier, on n'avait pas... on a eu un Mark Carney qui a beaucoup flatté, qui a beaucoup, qui a beaucoup complimenté le président américain, Donald Trump. Mais c'était quand même un discours qui était repris par Donald Trump aussi. Il a beaucoup complimenté Mark Carney également. Donc, bon, je suis content de voir au moins que la relation devant les médias entre les deux chefs d'État semble plutôt bonne, contrairement à ce qu'on a eu avec un président Zelensky il y a de cela quelques mois. Hier, justement, les deux présidents, les deux chefs d'État qui se sont rencontrés. Du côté du ministre du Commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, on a dit qu'il y avait des négociations plus sérieuses qui avançait concernant les secteurs de l'acier, de l'aluminium et d'énergie. Pourtant, Mark Carney revient à la maison des mains vides. Vous devinerez qu'il n'y a encore eu aucune entente dans ce dossier-là. Ce qui est intéressant, information que Radio-Canada a touchée aujourd'hui, le projet d'oléoduc Keystone XL, qui avait été abandonné il y a de cela 4 ans, aurait été ramené sur table lors de la rencontre Carney-Trump. On parle d'un pipeline qui ferait 1900 kilomètres, qui partirait justement d'Alberta, qui irait rejoindre les États-Unis, et que ce serait environ 830 000 barils de pétrole par jour qui serait transportés dans ce fameux pipeline-là. Pourquoi on a ramené le projet? Du côté de Donald Trump, on avait clairement un intérêt à développer milieu pétrolier. Mais ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump aurait dit au premier ministre Carney que si jamais il y avait une ouverture du Canada à réouvrir le dossier, à recommencer, à peut-être construire un projet autour de ça, eh bien, il pourrait avoir un allègement de droits de douane et sur l'acier et sur l'aluminium, selon les informations obtenues par Radio-Canada.
Ah, oh, mon Dieu. On n'était pas censé réduire notre dépendance aux États-Unis.
Ben c'est ça. Puis, ça m'amène à vous poser une question. Mais mettons que Donald Trump dit, si on fait ce projet-là, on réduit les droits de douane de l'acier et de l'aluminium.
Tu crois ça?
Ben non, je crois pas ça. Mais au final, on dit depuis toujours... Depuis plusieurs mois, du côté de Mark Carney, on veut réduire notre dépendance, même si, mettons dans un cas hypothétique où qu'on dit Donald Trump réduirait vraiment les droits de douane, c'est vraiment la bonne voie à prendre en disant « Hey, on s'est fait jouer un mauvais tour par nos voisins, on va développer une dépendance. » Si c'est vraiment ça, plan d'action, je verrais mal Mark Carney embarquer dans ce projet-là.
Imagine comment Trump gagnerait sur toute la ligne. Parce que, je veux juste dire, ces droits de douane-là sur nos secteurs stratégiques, ce que ça fait, c'est qu'on a moins intérêt à exporter aux États-Unis. On est d'accord?
Ben oui.
Donc, on a intérêt à diversifier nos débouchés pour notre acier puis notre aluminium.
En Europe, par exemple.
Mais ça nous les brise, là. On n'est pas content d'avoir des tarifs en ce moment, mais ça ouvre une opportunité de se diversifier. Donc là, on dit, c'est correct, je vais baisser tes tarifs sur tes secteurs stratégiques, ce qui fera en sorte de susciter vraiment plus d'intérêt à continuer d'envoyer...
Notre dépendance aux États-Unis.
Envoyer nos produits aux États-Unis, en plus de continuer et de renforcer le fait qu'on envoie la vaste majorité de notre pétrole aux États-Unis. Ils gagnent sur toute la ligne et en plus politiquement. Là, en ce moment, c'est beau, là, tout le monde aime ça, les pipelines. Là. Ça ne durera pas, les amis, là, parce que la crise climatique puis les enjeux environnementaux, ils n'ont pas disparu là, parce que Mark Carney a été élu puis que Donald Trump est revenu. Ça va devenir une patate chaude pour le gouvernement. Donc, en tout cas, bref, moi, je trouve que c'est épouvantable pour le Canada et pour M. Carney, cette approche-là.
Est-ce que la date butoir pour une entente entre le Canada et les États-Unis est celle-ci, Antonine?
La peine de commenter, mais je voudrais vous dire...
Oh, c'est un joli mot, ça! Un autre!
Que...
On le connaît déjà, bon. Celui-là!
Je faisais jouer la vidéo le 4 novembre au soir. Je sais pas pourquoi ça a pas marché. Mais bref, le 4 novembre au soir, c'est le budget. Faut-tu qu'ils s'entendent avec les États-Unis avant parce que le budget va être catastrophique?
Ben, je pense que ça n'arrivera pas. Donc, ils vont faire un budget qui va probablement prendre en considération que la situation économique va demeurer volatile, imprévisible. Là, de toute façon, on change toutes les règles comptables. Là, fait que
oui.
Ça va être très difficile d'analyser ce budget-là aussi. Ça nous pose des défis là, partout dans les gens qui s'intéressent au budget, dans les médias, les économistes, etc. Même le directeur parlementaire du budget, qui est mon ami, moi, dans la vie, là, parce que son site est vraiment utile. À chaque fois que le gouvernement fait une annonce, une annonce majeure là, qui implique beaucoup d'argent public, tu vas sur ce site-là et il va vraiment te faire une analyse complète si ça se tient financièrement puis qu'est-ce que ça signifie. C'est sûr que de se mettre des deadlines, on peut bien se mettre un deadline, là. Mais un budget, ça se fait pas sur le coin de la table non plus.
En effet.
Donc, il aurait fallu s'entendre maintenant pour qu'on puisse prendre en considération ces éléments dans l'entente, dans le budget. Donc, le bateau, je m'excuse, mais le deadline est déjà passé.
Il est déjà passé, hein, parce que là, anyway, ça ne changera rien sur le budget. C'est juste que peut-être que ça aurait pu amener une bonne nouvelle, c'était ça mon thinking,
en fait,
versus
c'est une
mauvaise.
Mais c'est une bonne, ça serait une bonne nouvelle annoncée politiquement.
Oui.
Puis, ce qui est vraiment terrible en ce moment, c'est l'imprévisibilité. C'est l'instabilité. C'est très mauvais pour l'économie. C'est un poison pour l'économie, l'imprévisibilité. Donc,
clairement.
Même des tarifs qui demeuraient, mais qui ne changeraient plus, c'est juste qu'avec Donald Trump, on le sait que c'est pas vrai.
Ça peut
il vient d'en ajouter, ses camions.
45, ses camions, 45% sur le bois d'œuvre à compter du 14 octobre. L'industrie du bois d'œuvre fait « OK,
c'est
pourquoi? »
C'est son jeu de maintenir cette imprévisibilité.
Ouais.
Ça ne changera pas.
Dans le but de gagner ultimement sa négociation, comme tu nous expliquais, de la façon qu'il est en train de le faire de façon détournée.
Il veut, lui, son but, là, je m'en vais dans sa tête un instant, là, puis c'est pas
t'es
lui
capable?
Qui m'a appelé pour me le dire, qui pour m'expliquer ça, mais c'est mon interprétation et je l'assume. C'est de changer l'ordre des choses de manière profonde, d'être un des présidents les plus marquants qui va avoir changé les États-Unis. Donc, son intérêt est de continuer à donner des grands coups de pied là, dans les plaques tectoniques pour que ça continue comme ça, au risque d'affecter l'économie américaine aussi.
En effet, t'as entièrement raison. Steve qui nous écrit « Jeff, fais pas jouer cela, s'il vous plaît. C'est ma fête le 4 novembre. » Il a scrappé ma journée.
Le 4 novembre.
Le 4 novembre. Pauvre Steve, on est avec toi. Je terminais sur une note humoristique. Parmi quelque chose qui va être très intéressant sur les ondes de Boulevard 102.1, c'est sans l'ombre d'un doute le débat des trois candidats de Lévis. Donc, Serge Bonin, qui était chef de l'opposition, qui est le chef de Repensons Lévis, qui se présente à la mairie de Lévis. Isabelle Demers pour Lévis Force 10, la dauphine de Gilles Lehoulier, celle qui avait les deux mains sur le budget qui gérait le cadre financier de Lévis, se présente pour succéder à Gilles Lehoulier. Stephen Blainey, un homme bien connu dans le milieu politique, ancien ministre pour le gouvernement Harper au niveau du Parti conservateur du Canada, qui se présente sous la bannière Prospérité Lévis, un nouveau parti qui l'a formé. Ça tombe bien, à l'antenne de Boulevard 102.1, vous avez eu le duel Hamad-Marchand, vous avez eu le duel Villeneuve-Lachance, et là, le 21 octobre prochain, à midi, ce sera les trois candidats à la mairie de Lévis qui seront présents. On va prendre trois termes, c'est-à-dire le développement, parce qu'on en parle beaucoup à Lévis, soit le développement économique, mais surtout le développement résidentiel et des infrastructures avec le moratoire qu'il y a. La qualité de vie, comment on va faire pour garder cette qualité de vie à Lévis avec le développement à vitesse grand V qui se fait. On le sait, Lévis a toujours été reconnu pour sa qualité. Les citoyens ont toujours été heureux de leur qualité de vie. Et on va terminer avec les finances publiques parce que Lévis, à l'heure actuelle, a des difficultés financières avec une dette qui ne fait que s'alourdir par rapport aux revenus disponibles. Ce sera les trois thèmes qu'on va aborder. On ne fera pas de débat les trois ensemble pour pas que ça devienne une espèce de « c'est moi qui crie le plus fort, donc c'est moi qu'on va entendre à la radio ». De la façon qu'on va le faire pour chacun des thèmes, chaque candidat va avoir une minute pour présenter sa vision. Et par la suite, on va faire des périodes de deux minutes de débat entre deux candidats ensemble. Donc, vous comprendrez qu'il va y avoir trois débats de deux minutes avec par thème où chacun des candidats vont s'affronter. Donc, c'est mardi le 21 octobre prochain à midi. Soyez des nôtres. Puis, quelques jours avant, là, sûrement le lundi le 20, je vais commencer à prendre également les questions des auditeurs. Avec Yannick Marceau, on a fait les questions des auditeurs à la fin du débat. Mais moi, j'aimerais bien en plugger une coupe pendant le débat des fois pour faire justement en sorte que les politiciens vous parlent.
Oui, puis, chers habitants de la Rive-Sud, vous serez à l'écoute parce que on a vraiment trois candidats qui ont des visions complètement différentes. Ils proposent vraiment des choses tous différentes, tous propres. Oui. C'est pas trois partis qui ont une plateforme copier-coller. Ils ont vraiment leurs idéaux propres à eux autres. Donc, c'est vraiment important d'écouter pour savoir quel candidat. Puis je pense que ça va être un beau moyen de connaître les différentes plateformes. Puis le taux de participation à Lévis aux dernières élections, si je ne me trompe pas, c'était aux alentours de 44 %. Si on pouvait monter ça un peu, avoir un peu plus de participation, puis une vraie course à la mairie, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps à Lévis,
ça serait
hot.
Vraiment. Ça va être plus élevé que 44 %, Antonine, avec cette course-là, là, vu que Gilles Loly n'est plus seul sur son trône?
Non, c'est ça. Je pense que le fait que M. Loly a annoncé son départ, les enjeux deviennent peut-être un peu plus grands. Les gens avaient l'impression que c'était déjà chose faite, des fois, hein, pour M. Loly qui gagnait assez facilement. Fait que j'appuie le message de Mathias. Allez écouter le débat et allez voter, surtout.
Et Antonine, tu vas être avec nous. Donc, de midi à midi et demi, ça ne sera pas le caucus Iaccarini, mais le débat Lévis. Tu sais, ça rime. C'est bon, ouais. Et par la suite, on va justement faire l'analyse de ce débat-là ensemble. Et c'est là également qu'on va faire interagir les auditeurs. Comme vous le faites si bien, au 418-971-1021. Antonine Iaccarini, je te souhaite une excellente journée. Tu t'en vas animer un débat municipal à Laval.
Hey, j'en avais deux cette semaine. Un à Montréal, c'est donc, ben, un cool. à Laval. Mais tu ne peux pas avoir plus neutre comme animatrice parce que je vote ni à Montréal,
ben,
ni à Laval.
C'est ça. Et deux candidats à Laval, hein? Rapidement,
Ils sont trois.
Trois?
Mais il y en a un qui fait à peu près aucun débat, là, monsieur. OK. Donc, le maire sortant, Stéphane Boyer, qui est maire depuis, qui a été élu dans la vague de jeunes maires en 2021, et Claude Larochelle, son principal opposant.
Bien, bonne animation de débat, Antonine. Va t'amuser là-bas dans la région de Laval et on se reparle demain midi.
À
T'es
demain.
Une machine d'aller à Laval puis de revenir demain pour nous autres.
Oui, je reviens le plus vite possible à Québec toujours.
Oui, gros job. Excellent. Merci beaucoup, Antonine Iaccarini. On fait une courte pause et par la suite, c'est Lambert Drainville qui va nous parler. Il va nous parler de l'épiderme sensible de PSPP, toi. Ben oui, Yasmine Abdel-Fadel qui écrit « Ah ouais, PSPP, il pourrait faire des choses autrement. » Puis mon Paul Saint-Pierre Plamondon qui monte le ton sur X, qui s'enfarge dans ses mots puis qui est bien fâché de ça.
Du Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait du Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense que c'est comme ça que je résumerais la chose.
Ouais, en effet. Donc, on fait une courte pause à Boulevard 109. Vous êtes à l'émission « On en jase ». Comme vous venez de l'entendre, c'est une programmation de feu qu'on vous offre sur Boulevard maintenant qu'on est 100% parlé la semaine. C'est le retour de Gravel qui va suivre notre émission. Comme à l'habitude, l'excellent Denis Gravel avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Marceau le soir avec Éric Duhaime ce soir à 18h. Et on est de retour demain matin dans Marceau le matin. Moi, Yannick et Max Larouche. Max Larouche qui anime le Point de Max de 10h à midi. Je le rappelle à la météo, c'est une belle journée, 15 degrés. 11 degrés demain, généralement ensoleillé. Et à long terme pour le week-end, c'est du 14, 17 et 16 degrés ensoleillé pour vendredi, samedi et dimanche. On en a parlé avant la pause. Semble-t-il que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, a l'épiderme sensible selon la chroniqueuse de Québécois, Yasmine Abdel-Fadel. Lambert Drainville, t'en penses quoi? Est-ce que PSPP est allergique au débat? Ou comme PSPP le dit, c'est les chroniqueurs qui se permettent d'écrire de quoi, puis dès qu'on les critique, ils réécrivent encore pour nous planter?
C'est un peu les deux.
C'est drôle parce que j'ai lu justement les textes que tu m'as envoyés, puis je me suis dit, c'est-tu quoi, les deux ont raison?
Ah, les deux ont raison, puis tu sais, ben franchement, pour avoir été aux communications au gouvernement, là, moi, je trouve ça correct qu'ils prennent le temps de répondre. Surtout, il le fait quand même là, de façon, tu sais, réfléchie. Là, il écrit des longs textes, là, c'est pas tout le monde qui va les lire, mais... il prend la peine de répondre. Puis souvent, quand tu es en politique, justement, les médias, c'est vrai les deux côtés. Là, la seule chose, c'est qu'ils ont souvent le dernier mot. Fait que c'est souvent ça que je vais dire. Là, puis pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ben la vérité, c'est qu'il va devoir, apprendre à peut-être choisir ses moments. Parce que plus que ça va avancer, plus qu'il va aspirer à être le prochain premier ministre si les sondages restent comme ils sont, il pourra pas, là, puis plus qu'il va être la cible, évidemment, d'articles, d'attaques autant des autres partis que des médias en question qui vont écrire des textes sur lui, des textes d'opinion. Et il va devoir apprendre à comment je dirais ça, choisir ses batailles. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose dont ils sont conscients. au sein du PQ. Là. Ils le savent très bien. Moi, je trouve que, considérant la grandeur de leur toute petite équipe, ils ont fait un super job au niveau de la communication pour le positionner comme un gars qui est justement posé, réfléchi, qui est même capable de, t'sais, d'avoir du fun des fois. Là, t'sais, on l'a vu jouer au football, on l'a vu faire un paquet d'affaires.
Ben oui.
Ben c'est ça. Mais là, Yasmine a dit que depuis quelques mois, on remarque qu'ils ont la peau plus fine, que ce n'est pas rare qu'un chroniqueur, un observateur ose analyser le discours du PQ, reçoive en retour une réplique hautaine et condescendante. Pourquoi donc toute cette paranoïa, ce dogme, ce mépris?
Lambert, on va se le dire. Et là, je vais donner l'exemple de la campagne électorale municipale ici à Québec. Les médias, les chroniqueurs, les journalistes, ça demeure des êtres humains. Puis si tu viens constamment les piquer, tu gagneras pas à ce jeu-là parce que les chroniqueurs dans les médias écrits vont pouvoir écrire la chronique qu'ils veulent. L'animateur de radio, le chroniqueur comme toi dans plusieurs médias sur les médias sociaux va pouvoir donner son opinion. Tu gagneras jamais ça. Et Sam Ahmad a perdu contre Radio-Canada et Québécois à force de conférences de presse, de les critiquer ouvertement. Ils ont dit « Ah ouais, mon Sam, check-nous bien à lui. » Il est perdant de ça.
Absolument. C'est un méchant bon exemple. Puis c'est pour ça que je dis qu'il ne gagnera pas. Fait que c'est pour ça que plus ça va avancer, plus il va être la cible d'attaque, plus il va devoir apprendre à choisir ses moments. Maintenant, j'ai commencé avec ça. Je trouve ça correct aussi que des fois, ils prennent le temps de répondre, qu'ils prennent le temps de... Mais il ne faut pas qu'ils perdent son côté, justement, posé, son côté réfléchi. Il est à son meilleur, justement, quand il y a ces traits de caractéristiques-là. Et quiconque l'a côtoyé à l'interne sait très bien que c'est pas pour rien que la petite étiquette caquise de dire qu'il est un peu soupe au lait lui a collé à la peau. C'est que c'est en partie vrai.
Oui, oui, oui.
C'est pas nécessairement négatif. Ben, c'est un peu négatif, mais au fond, c'est un gars passionné, c'est un gars qui défend ses idéaux, puis généralement, il fait de la bonne façon. Je pense qu'il va juste devoir apprendre à s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée une fois de temps en temps.
C'est une intensité, puis honnêtement, là, je le dis comme ça, puis avec toute humilité, là, j'ai cette intensité-là, moi. Puis, t'sais, je le sais que j'en dérange du monde des fois parce que, hey, non, c'est ça que je veux, puis on s'en va là, puis on le fait, puis c'est pas toujours dit de la bonne façon. Mais c'est un gars qui travaille, c'est un gars qui a à cœur le projet référendaire, c'est un gars qui a à cœur la souveraineté. Et ça, on peut pas lui reprocher cette intensité-là. T'sais, ça vibre dans ses veines, là.
Exact. Puis, comme on va finir ça avec comment on a commencé. Je pense que de dire que Paul Saint-Pierre Plamondon a l'épiderme sensible du côté de Yasmine Abdel-Fadel, ça aidera pas au fait qu'il va arrêter de lui répondre. Et bien honnêtement, tu sais, dans sa réponse sur Twitter, il soulève quand même quelques bons points. Là. Yasmine, elle est très, très libérale dans sa moelle. C'est bien franchement, c'est assez transparent quand tu la regardes sur ses différentes tribunes. Et c'est vrai que des fois, elle mélange un paquet d'affaires, est allergique à la question identitaire. Elle parle d'islam radical d'un bord, la laïcité, l'égalité homme-femme, puis elle met tout ça dans le même panier. Laissons les gens débattre, c'est ce que je dis. Laissons les gens débattre. Au PSPP, c'est peut-être de choisir ses batailles. Voilà. Ouais.
Parlant de Yasmine et de PSPP qui débattent sur la place publique, malheureusement, il y en a deux qui se parlent plus. C'est les médecins et le gouvernement de la CAQ pour une xième fois. Il se passe quoi avec nos médecins, Lambert?
Hey, moi, j'en ai parlé souvent. Tu le sais, là, j'ai parlé des études du HEC là, pratiquement à chaque semaine depuis qu'on est ensemble. Et juste faire un petit édito là-dessus, là, Jeff, là, je mets souvent les clips, tu sais, de toi puis moi là, qui parlent des études du HEC. Puis, tu sais, moi, je le fais un petit peu parce que ces études-là nous éloignent des deux spins, autant celui des médecins que celui du gouvernement. Puis, c'est les seules études qui nous offrent ce qui se rapproche le plus d'un portrait clair de la rémunération des médecins au fil du temps, puis de leur charge de travail, puis du nombre d'actes médicaux qu'ils font auprès de la population. Puis, hey, le nombre de médecins là, qui m'écrivent, là, ça les met là, hors d'eux. Là. Ils sont viscéraux, ils sont méchants.
Mais pourtant, c'est des chiffres et des statistiques qui sont véridiques, là.
Donc, ils sont véridiques,
t'as bien beau te fâcher, t'as bien beau. C'est comme hier quand j'ai dit à Anne Guérette, hey, vous me dites qu'il n'y a pas un entrepreneur dans la ville de Québec qui veut du tramway. Il y a eu un sondage, ils sont 70% de vouloir. Puis il était fâché, mais tu sais,
donc, je comprends que je te dis. Chaque étude peut avoir des biais, puis il y a une méthodologie, puis il n'y a rien qui est parfait. Là. Il n'y a rien qui est parfait. Il y a toujours un petit peu de biais, même dans les médias. Ça reste que j'en ai pas d'autres sur laquelle m'appuyer. Fait que si quelqu'un en a une autre, ben envoyez-moi là, je vais l'entendre canadien avec grand plaisir. Mais présentement, c'est tout ce qu'on a parce que le gouvernement a changé les règles par rapport à la collecte de données avec des lois passées par Christian Dubé dans les dernières années qui permettent finalement de faire des études comme ça. Et donc, la force de lobby des médecins est gigantesque.
Ben oui, avoir Lucien Bouchard qui est derrière eux, là, c'est clair que c'est gigantesque. Là.
Des millions, là, écoute, ils payent 5% de leurs honoraires à leur syndicat. Là.
Aïe, aïe, aïe.
5% de gens qui font 3-4 000 par année. T'sais, ils fonctionnent sur des budgets de dizaines de millions annuellement. Et dans le cas des négociations, ce qu'on en comprend, c'est que pour l'instant, ils n'en mettent pas de l'eau dans leur vin. On peut débattre de chacun des deux côtés, qui a raison, qui n'a pas raison, mais le gouvernement a fait reculer la partie qui va toucher les indicateurs de performance, qui va toucher le salaire des médecins de 25 à 15 % a reculé par rapport aux médecins qui sont en début de carrière ou en fin de carrière, ont mis de l'eau dans leur vin. Ils me disent qu'ils sont prêts à en mettre plus. Et du côté des médecins, dès que le projet de loi 106 est ne serait-ce que dans la discussion, ils ne veulent pas discuter du projet de loi, ils ne veulent pas discuter de ce qu'il contient, ils ne veulent pas discuter du principe. Et là, c'est ce qu'ils ont dit au médiateur. Mm-hmm. On dit, nous, si ça s'est impliqué, on ne veut pas négocier. Le médiateur, lui, sa job, c'était de rapprocher les deux parties. Il voit bien qu'il n'y a pas de rapprochement à faire. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Ils veulent l'arbitre, ils veulent le gars qui va venir et va dire, on tranche la poire en deux puis vous allez obtenir tel pourcentage d'augmentation de salaire. Mais en Ontario, quand ça s'est fait, ça s'est traduit en 17 % sur 4 ans. Si tu fais ça au Québec, là, c'est 1 milliard et pas 1 milliard total. Là. On parle de 1 milliard par année.
Oui, c'est ça qui est de façon pérenne à trouver dans un budget. Mais c'est ça, c'est des salaires donc où on est déjà en déficit là, de 13,5 milliards de dollars. Là. Donc,
pour le gouvernement, c'est inacceptable. Fait que comment ça va se finir? Ben, eux autres, ils vont revenir sur leur moyenne pression. Ils vont, comme on dit, toi, t'es un gars de sport, ils vont dire, ils vont jouer l'horloge. Ils vont essayer de jouer ça jusqu'en octobre 2026. Ils signeront rien. Ils vont mettre de la pression à travers les différents moyens de pression qu'ils peuvent mettre en place. Puis le gouvernement, ben, ils veulent pas en arriver là, mais l'arme atomique, leur dernière option, c'est de tout passer ça par bâillon. Mais évidemment que c'est pas... ils préfèrent s'entendre avant ça puis pas en arriver là.
C'est clair. Hey, Lambert, parlant de 1 milliard de dollars, OK, François Legault nous parle toujours de sa moyenne au bâton en économie, mais là, on a perdu 400 millions de dollars, c'est sorti dans les médias aujourd'hui, dans Airbus. Ça s'ajoute aux 270 millions de dollars dans Nordvolt, aux 220 millions de dollars dans recyclage carbone Varenne et aux 143 millions de dollars dans Lyon Électrique. Colin, le gouvernement vient de nous perdre un milliard.
Ouais, bon, ça c'est...
Fait que tu sais, ça se peut qu'il y ait une moyenne au bâton, pas pire, mais il me semble que quand j'ai perdu un milliard, ça me fait mal, moi, en tant que contribuable qui paye des impôts et des taxes.
Ben c'est ça, tu sais, puis au-delà des dossiers spécifiques, c'est les symboles, tu sais, qui s'accumulent, puis c'était initialement le gouvernement de comptable, M. Legault, Pierre Fitzgibbon, c'était la rigueur économique, les investissements, on allait mettre le Québec sur la map des multinationales, puis aller générer de la richesse, puis les symboles s'accumulent. Puis j'entends le premier ministre quand il dit, ben là, on parle tout le temps des deux, trois mêmes dossiers, mais on investit avec Investissement Québec dans 25 000 entreprises chaque année. Je comprends, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un matin que je me lève puis que je lis dans ma revue de presse à propos d'une des 24 995 autres entreprises qui nous ont rapporté tellement puis qui vont tellement bien, tu sais. Puis là, il va te dire, ben je comprends donc, mais il va te dire, excuse-moi, je cherche mes mots.
Hey, pas trop.
On est meilleur que l'Ontario, tu sais. Notre économie va mieux que l'Ontario. PIB par habitant, richesse générée, revenu par famille, etc. Imagine comment que ça irait encore mieux.
C'est ça l'affaire.
Si en plus les investissements qu'on faisait dans les entreprises fonctionnait, puis que la moyenne au bâton est encore plus...
Hey, ça va bien, on est sur le bord de faire les séries éliminatoires. Imagine comment ça ira bien si on a la Coupe Stanley dans les mains.
Ben, tu sais, c'est un peu ça. Puis pour ce qui est d'Airbus spécifiquement, là, c'est vrai que l'industrie aéronautique, là, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant d'avoir un retour sur l'investissement. Pour l'instant, c'est vraiment les actions du gouvernement qui ont perdu la moitié de leur valeur. Mais, tu sais, à l'interne, on me dit on jugera l'arbre à ses fruits dans 10-15 ans, voir si ça a été un investissement payant. Certes, mais malheureusement pour eux, les élections, elles, sont dans un an.
Oui, puis on parle quand même de pertes avec tous ces projets-là là, chez du côté de Québec de plus d'un milliard de dollars. Puis je tiens à le rappeler aux auditeurs, ça, c'est sans les dépassements de coûts dans tous nos projets. Là, on parle seulement d'investissement dans des entreprises. On parle pas de tous les autres dossiers, de tous les sacrifices de ce monde qui a eu lieu avec des dépassements de coûts monstres. Ça, ce au-dessus d'un milliard perdu-là, c'est seulement dans les investissements aux entreprises.
Oui, c'est ça. Puis Pascal Paradis était en période de questions plus tôt aujourd'hui, puis il parlait d'une demande d'accès à l'information qu'il avait obtenue, qui parle justement, Mathias, des dépassements de coûts au niveau des différents projets informatiques. Parce qu'encore une fois, le premier ministre a dit hier que 80 % des projets informatiques étaient ouverts, bien, selon cette demande d'accès à l'information-là. Puis encore une fois, c'est ce que M. Paradis dit. Je sais que vous le recevez souvent en nombre.
Oui.
Je pourrais peut-être demander encore plus de détails, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que, écoute, il y a 70 projets qui sont en dépassement, puis ça équivaut à des dépassements d'un demi-milliard.
Aïe, aïe, aïe.
Avec quoi? À peu près un
on
milliard tantôt, un demi-milliard de plus. Écoute, tu sais, c'est comme rendu tellement beaucoup de chiffres qu'on s'y perd un peu, mais encore une fois, Jeff, ça revient toujours, et Mathias, ça revient toujours à la même chose. Les symboles, c'est les symboles qui font mal en politique et qui créent un narratif autour d'un gouvernement.
Je l'aime vraiment ta phrase, les symboles. Je vais la retenir, Lambert, elle est vraiment bonne. En terminant, en une minute, est-ce que Jonathan Junier va être capable de remettre les contrôleurs routiers sur la route bientôt, puis de les armer, ou on va être pris encore avec ces chauffeurs Inc.-là sur la route avec l'hiver qui approche? C'est rien de rassurant pour la population?
Non, puis tu sais, dans ce dossier-là, là, les deux paliers de gouvernement ont une part de responsabilité. Je sais que vous allez parler à un...
Ah, oh, je suis tellement d'accord avec toi.
C'est beaucoup plus Ottawa, bien honnêtement, là, au niveau de comment les lois ne sont pas appliquées, puis l'Agence du revenu, Emploi et Développement social Canada qui font peu d'inspections, puis qui permettent un peu à des genres de faux travailleurs autonomes, des gens arrivés issus de l'immigration qui là, conduisent soudainement les 53 pieds sans neige avec aucune expérience.
Après 10 jours de formation, alors qui sait, à Charlebourg, on a un centre de formation professionnelle, puis ça prend 5 mois pour avoir ton permis.
Ouais, puis c'est grave, là. Tu sais, il y a eu des morts. Il y a un enfant de 6 ans avec qui est mort, là, il y a 2 semaines, je pense. Il y a eu un accident hier, là, impliquant un gars qui avait conduit 57 heures d'affilée. La responsabilité du Québec, maintenant, c'est sûr que c'est de ramener les contrôleurs routiers sur la route. Puis ça fait des mois et des mois que ça niaise. Puis là, tu sais, je leur ai parlé. Il y a une décision. Tu sais, clairement, là, ils savent où ils s'en vont. Moi, ce qu'on me dit, c'est que M. Julien, M. Lafrenière, au niveau de la sécurité publique, sont sur la même longueur d'onde, ont choisi leur solution. Je ne veux pas donner d'indices, mais si j'avais à mettre un petit 2$, parce qu'ils hésitent évidemment entre le teaser et l'arme à feu, là, je mettrais un 2$ sur l'outil qui fait plus « pow » que l'outil qui fait « bum ».
Moi aussi.
Oui, fait que je peux pas en dire plus, mais ça vient évidemment avec des implications, tu sais, d'armer des gens. Il faut qu'ils regardent au niveau du ministère des Finances combien ça va coûter. Là, si, tu sais, Conseil du Trésor, s'ils changent de catégorie d'emploi. Fait que c'est pour ça que ça niaise. Je vais finir avec ça, Jeff. Ça démontre un petit peu les impacts que peuvent avoir un remaniement ministériel. T'sais, les remaniements, on en parle, c'est souvent des stratégies un petit peu de relance, des stratégies de communication. Mais là, clairement, c'est un dossier sur lequel M. Bonnardel, Mme Guilbeault avaient travaillé. Et là, quand tu parles au cabinet de M. Julien, tu sais, ils te disent, ben nous, on vient d'arriver, tu sais, on vient d'être nommé, puis on est vraiment, c'est notre dossier prioritaire. Peut-être que si c'était parlé ou peut-être que si le ministre n'avait pas changé, c'est un enjeu qui serait déjà réglé.
En effet, t'as entièrement raison. Lambert Drainville, toujours un bonheur de te parler à chaque mercredi et vendredi sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission Nangeaz. On se reparle vendredi. Merci pour tes excellents talents de vulgarisateur. On vient de faire 4 sujets en 16 minutes, puis j'ai tout compris.
Hey, ben, c'est une bonne affaire. J'espère que les auditeurs aussi ont tout compris. C'est ça,
c'est ça qui compte. Yes! Hey, salut, Lambert, mon chum. Toujours un plaisir.
Hey, ciao, les boys.
Salut! Bye-bye. Lambert Drainville, un vulgarisateur. On repart. On est chanceux dans Nangeaz. On a Lambert Drainville. On a Farnell Morisset également qui est avec nous les vendredis. On est vraiment choyés. Mathias, vas-tu être là le 22 octobre?
Je vais essayer d'être là. Je vais être dans une période d'examen. Hey! Fait que ça va dépendre de mes examens, mais j'aimerais beaucoup pouvoir être là.
Moi, j'allais-tu au party ou je faisais mes examens?
Ben Jeff, j'ai un examen cette journée-là, durant. Ouais, donc, c'est, mon examen finit à 6h30. Ouais. Donc, je viendrai plus tard.
Ah,
mettre
ben oui!
Mais j'ai un examen le lendemain matin à 9h.
Ouais, ça, c'est plus tough.
C'est ça.
Ouais, c'est plus tough. Je me levais de bonne heure pour étudier. Tu dis, mais un party de même. Hey, j'aurais-tu raté un party de même?
Mais ben, ça donne envie. Ça donne envie.
Parce que le party, c'est les 10 ans de boulevard. Le Claire Communication qui lançait une nouvelle radio dans le marché. 100% conçu à Québec par et pour les gens de Québec il y a de cela 10 ans. Et on va fêter ça le 22 octobre, 17h, au Malcommode, situé au Promenade Beauport, au 3333 rue du Carrefour. Hey, ça va être un party, ça.
Hey, ça. Regarde, ça va tellement être une belle soirée que j'ai pas le choix. Je vais me trouver. Je vais la libérer.
Ah, pas fort, je vais libérer.
Je vais libérer de moi une partie de ma journée.
Parce qu'écoute, c'est le lancement de la bière à la Gravelle.
Oh.
C'est une émission spéciale en direct. Et c'est l'intronisation au Radio Hall of Fame du duo Denis et Véro qui souligne 20 ans de carrière. Musique live avec Big Muff en plus et un paquet de surprises. Et là, on a un accès VIP double à faire tirer, donnant accès au cocktail dînatoire ainsi que deux consommations par personne. Vous nous textez au 418-971-102 et écrivez votre nom complet et le nom de la personne avec qui vous allez y aller. Tu sais quoi, Mathias? Celle-là, je vais être là avec Val.
Ah, OK. Ah, pour
ben
celle-là.
Mais, hein, qu'on va être là les deux ensemble.
Pas le choix. Pas le
c'est
choix.
Certain pour les 10 ans de boulevard. Et les 20 ans, honnêtement, il faut le souligner, de Denis et Véro. Incroyable duo radiophonique que vous entendez à chaque jour. Ici, du lundi au vendredi, de 14h à 18h, dans le retour de Gravel. Ils sont accompagnés de l'excellente, mais je dis bien l'excellente, Audrey Pinchot. Alors, textez-nous 418-971-101, votre nom complet, et avec qui vous allez aller aux 20 ans de Denis et Véro aux 10 ans de boulevard au Malcommode, promenade de Beauport. On fait une courte pause et par la suite, on parle avec Gilles Levasseur. Vous l'aviez adoré il y a de ça deux semaines quand il nous a parlé, le professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. On va revenir sur comment ça, François Legault et la CAQ ont signé des contrats de même avec LGS. Lui, c'est un spécialiste. Il va nous expliquer pourquoi c'est arrivé. Puis sûrement pourquoi c'est une mauvaise décision.
Bon, vite de même, quand tu me dis, tu signes un contrat, puis tu dis à l'autre personne, ben même si tu ne me l'as pas encore livré, je vais être obligé de te payer. C'est bizarre comme clause, mettons.
Exactement. Donc, on s'en parle après la pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 102.1. Angers. 13h40, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase. Jeff Fortin, Mathias Turcotte avec vous jusqu'à 14h. Le retour de Denis Gravel qui suit avec Véro, Bergeron et Audrey Pinchot. De 14h à 18h, Marceau le soir avec Éric Duhaime ce soir, le chef du Parti conservateur du Québec, de 18h à 19h. Puis là, on retourne demain matin. On recommence ça avec Marceau le matin. Yannick Marceau à l'antenne, à la barre de cette émission avec Jeff Fortin et Max Larouche. Et Max Larouche de 10h à midi. Je veux féliciter Philippe Vincent, qui est notre gagnant. Il va venir nous voir au Malcommode pour les 10 ans de boulevard, les 20 ans de Denis et Véro. Ça se passe le 22 octobre prochain, compté de 17h. Philippe qui va amener sa blonde, Joannie. Donc, Phil, n'hésite pas, viens me voir, viens me serrer la pince. Ça va me faire un énorme plaisir de discuter avec toi. Je t'envoie à l'instant même les façons de procéder pour réclamer ton prix. Donc, Phil, bienvenue au Malcommode le 22 octobre prochain. Avant de parler de sport, Matt, parce que les Jays, malheureusement, ont raté leur chance hier face aux Yankees. Et ce soir, c'est le début du Canadien de Montréal contre les Leafs de Toronto. Qu'est-ce qu'on doit savoir dans l'actualité en ce mercredi 8 octobre après-midi?
Je veux commencer parce qu'il y a un auditeur qui m'a demandé une mise à jour sur Post Canada. J'avais pas eu la chance de la faire dans le dernier bulletin de nouvelles. Juste indiquer que le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes rencontrera le ministre responsable de Post Canada, soit Joël Lightbound, ce soir, justement, pour discuter de la nouvelle réforme de la société d'État. Joël Lightbound, qui avait sorti la réforme, qui n'a pas encore rencontré le syndicat depuis. On le rappelle, après la sortie de cette réforme-là, le syndicat qui a annoncé partir en grève générale depuis ce temps-là. Post Canada qui est en grève, donc il rencontrera le ministre Lightbound pour la première fois ce soir. Je vais amener ton attention sur un phénomène, une manifestation qu'on a vue hier. J'aimerais avoir l'avis des auditeurs au 88-971-1021 aussi. Environ 80 manifestants se sont réunis hier devant le pavillon Palacis Prince à l'Université Laval. Le but de cette manifestation-là, c'était de souligner leur appui à la Palestine.
Ouais.
En gros, ils ont fait cette manifestation-là.
Hey, attends un peu. 7 octobre.
Ouais, ben c'est ça.
Ouais, 7 octobre 2023. C'est l'attaque du Hamas en sol israélien. C'est plus de 1000 morts.
Oui, 1200 morts pour être exact, selon les chiffres de l'AFP. Donc, un drame complet, là. On parle notamment de l'attentat qui a aussi fait en sorte qu'Israël riposte. Puis, je tiens à le préciser, là. La situation en Israël, pour moi, c'est inacceptable ce qu'Israël fait dans la bande de
inacceptable.
Gaza.
Inacceptable. La famine est prise.
C'est terrible.
30 000 on civils empêche, tués.
On empêche l'aide humanitaire de rentrer. Puis d'ailleurs, 9 bateaux d'une nouvelle flottille internationale pour Gaza ont été ciblés lors d'une intervention israélienne. On aura rapatrié les bateaux en Israël. On tient pour l'instant les différents passagers pour otages qu'on devrait relâcher sous peu. Parmi ces bateaux, on a avait 6 Canadiens. Donc, on suit la situation de près et justement, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anna, a demandé à Israël de libérer les citoyens canadiens très rapidement. Pour en revenir à ce que je vous parlais, manifestation, 80 manifestants. On manifestait parce que hier à l'Université Laval, on a eu une conférence de la générale Jenny Carignan, Carignan, chef d'état-major de la Défense du Canada. Moi, je trouve ça quand même cool qu'on reçoit la chef d'état-major de la Défense du Canada à l'Université Laval. Visiblement, ces 80 manifestants-là n'étaient pas du même... Non, j'avais un cours, malheureusement.
Ah, c'est dommage. Ouais, mais c'est ça, les autres n'étaient pas comme toi parce qu'ils disent « Ah, vous encouragez Israël dans le combat contre la Palestine. » C'est bien ça.
Exact. Puis, justement, manifestation pro-Palestine, la journée de l'anniversaire de 2 ans de ce fameux attentat-là qui a tué, malheureusement, 1200 personnes. J'aimerais avoir votre avis au 88-971-1021. Parce que moi, comment que je vois la situation? Je suis pour les manifestations pro-Palestine. Écoutez, si vous voulez manifester, si pour vous, c'est quelque chose d'important, je pense que c'est une population qui vit des moments très difficiles actuellement. Je trouve ça correct, puis je suis pas pour brimer le droit de parole de ces personnes-là. Par contre, pour moi, on a 364 jours dans l'année, 364 jours que je juge qu'il est acceptable de manifester pour la Palestine. Pour moi, le 7 octobre est la seule journée qui n'en fait pas partie. Lorsque c'est l'anniversaire d'un attentat qui a été causé par cette même administration-là qui est en place en Palestine, soit le Hamas, je pense que cette journée-là, je me garderais une gêne de manifester pour la Palestine.
C'est t'as tellement raison. Et ça va de pair avec Joseph Facal. C'est le premier qui m'avait allumé là-dessus dans sa chronique qu'il a fait justement lundi 6 octobre en disant « Non, les jeunes, vous n'aidez pas les Palestiniens. Okay. » Et il a raison parce que, justement, c'était le même argumentaire que toi, à savoir « Hey, il y a 364 jours dans une année. Pourquoi 365 dans une année? Il y en a 364 autres. Pourquoi vous avez choisi le 7 octobre qui... correspond justement à cet attentat sans précédent du Hamas en sol israélien. Et je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec Joseph Facal. Jamais cette date-là n'aurait dû être choisie. Et soit dit en passant, pour les manifestants qui disent « Hey, l'armée canadienne, vous aidez l'armée israélienne, vous les incitez à la violence », c'est en partie faux parce que le Canada a reconnu l'État palestinien. Oui. Alors, le Canada a fait son travail dans le dossier et il y a énormément de violence faite par les étudiants justement pro-palestiniens parce que tu vois, là, je ne sais pas si tu la vois sur l'ordinateur, mais regarde l'image. C'est un Palestinien avec un sac sur la tête qui correspond là, justement aux signaux de solidarité, au logo, devrais-je dire, de la solidarité pour la Palestine, qui frappe une personne qui a un drapeau israélien sur la tête et le sang qui gicle.
Ah, c'est terrible. Je veux dire, tu peux pas défendre une population qui sont victimisées présentement en incitant cette population-là à victimiser une autre population. Je trouve ça complètement contradictoire. Puis je tiens à le préciser, là, je veux dire, souvent, dans les manifestations du genre, c'est des groupes extrémistes qui s'y trouvent.
Oui, vraiment.
Je tiens à le souligner, là, puis je t'en avais déjà parlé, Jeff. Il y a de plus en plus de groupes extrémistes.
Malheureusement.
On parle de la montée de l'extrême droite partout à travers le monde. Il y a de plus en plus de groupes extrémistes de gauche qui naissent. On parle d'Antifa. Il y a un parti que j'ai remarqué dernièrement parce qu'il y a des affiches partout sur le campus universitaire, le Parti révolutionnaire communiste, que ça s'appelle. Puis d'ailleurs, hier, il était présent au sein de la manifestation avec une pancarte affichée de le capitalisme et crée la guerre.
On mélange plein de combats à l'intérieur de ces manifestations-là. C'est ce qui m'apparaît bizarre. Une série de textos très intéressantes. C'est triste, mais ça dure depuis plusieurs décennies. Ça ne se réglera pas de sitôt et ça ne nous regarde pas. Stéphane qui nous dit, si tu manifestes cette journée-là précise pour la Palestine, ça veut dire que tu cautionnes les massacres du Hamas. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut choisir une autre journée. Et cela dit, ça n'a pas d'allure ce qu'Israël fait avec la bande
100%.
De Gaza.
Faut dire
la
ça.
Bande de Gaza est détruite. La population est en famine. Les enfants souffrent de malnutrition. Puis il y a eu 30 000 civils de tués. Ça n'a aucun sens ce qu'Israël fait. Mais ce n'est pas la bonne journée pour manifester. Également, on a un autre texto ici. J'ai une amie qui est policière. Elle était sur les lieux hier. Les manifestants commençaient à casser les fenêtres.
Oh my God.
À qui ça aide les Palestiniens à briser des choses à Québec? En effet, c'est du mauvais comportement de manifestants. Et on termine avec... devrais arrêter de lire et parler en même temps. Ça sonne pas bien fou. Oh, c'est un commentaire là, sur la façon qu'on fait la radio. Ouais, Vince, c'est sûr que quand on fait une nouvelle, on la lit. Mais merci de ton commentaire, Vinny. On apprécie grandement.
Mais je tiens à préciser une chose. À toutes les personnes qui ont pu manifester hier, là, sont probablement pas à l'écoute. Je pense pas qu'on est...
Non, exactement.
C'est pas notre auditoire cible.
Est, c'est ça.
Mais ces personnes-là qui manifestent pendant cette journée-là, faut penser que cet attentat-là a touché des personnes, a touché des familles. C'est pas les plus impactés par cet attentat-là, par cette journée-là. C'est pas le gouvernement israélien, c'est les familles qui ont perdu des membres. C'est la petite fille qui a perdu son père. C'est la mère de famille qui a perdu son chum. Ou inversement, c'est la famille qui ont perdu leur enfant. C'est ces personnes-là qui sont touchées. Puis je pense que faut toujours avoir la réflexion derrière de dire « Hey, je suis pas pour ce gouvernement-là.
Non.
Par contre, on peut avoir une certaine sensibilité envers les civils qui habitent quand même le territoire. »
En effet. Donc, c'est très, très, très bien dit, Mathias Turcotte. J'apprécie grandement. Une petite dernière nouvelle avant qu'on passe dans notre sport.
Oui, je termine avec l'ancien directeur du FBI qui a plaidé non coupable face à deux chefs d'accusation du côté des États-Unis. On parle des deux chefs d'accusation, en gros, c'est fausses déclarations devant le Congrès et entrave aux travaux du Congrès après qu'il ait pris la parole en 2020 devant le Congrès. Le dossier a été présenté à un grand jury juste après que Donald Trump a réclamé une poursuite face à ce directeur-là de la FBI en question, à Pam Bundy. Donc, du côté de la défense, présentement, on demande l'abandon des poursuites parce qu'on dit que les poursuites ont lieu pour des motivations politiques. Pour l'instant, la poursuite, le procès a toujours lieu et il devrait avoir lieu le 5 janvier prochain.
Oh, ça l'a fait mal, cette longue balle hier. Darren Judge, on crée l'égalité ainsi. 6-6 du côté des Yankees pour finalement se sauver avec une victoire de 9-6 sur les Jays de Toronto. Les Jays qui menaient... Ils menaient 6-1 dans le match, mais ils l'ont échappé. Deuxième chance d'éliminer les Yankees. Ça se passe ce soir, 19h08. Du côté de l'autre série dans la Ligue américaine, les Mariners de Seattle qui affrontent les Tigers de Détroit. Cet après-midi, 15h08, c'est 2-1 Mariners dans la série. Et Milwaukee pour éliminer Chicago, 17h08, le début du match. Et également les Dodgers qui reçoivent les Phillies pour les éliminer à 21h08. Matt, on réussit-tu les Jays? Est-ce qu'on envoie les Yankees en vacances ce soir?
Ah ben, on croise les doigts parce que sinon, là, ça va commencer. C'est à être stressant.
Ouf, oui.
Puis après les deux premiers matchs, la domination qu'il y a eu dans les deux premiers matchs, les Jays prennent les devants, c'est ça. Dans la tête de tout le monde, c'était réglé.
Ouais.
Les Jays sont dominants. Les Yankees qui reviennent. Puis quand une équipe revient d'un si grand écart, des fois, ça commence à être stressant parce qu'on se dit, hey, même si les Jays gagnent 2-1 présentement, En rentrant dans cette quatrième affrontement-là, on peut dire que c'est les Yankees qui ont le vent dans les voiles.
Exactement, surtout que c'est l'excellent lanceur recru Keim Scheisler qui va être au monticule pour les Yankees ce soir. Il a fait un jeu blanc, 8 manches, 12 retraits au bâton, son premier départ en carrière en série face aux Red Sox de Boston. Donc, il n'y aura rien de facile pour les Jays. Ce soir, évidemment, énormément d'amateurs de hockey vont suivre ceci.
Caulfield, long détour et remet ensuite à Suzuki. Suzuki vers le filet. Quantum. Un scénario absolument invraisemblable. Le Canadien l'emporte.
Est-ce que le Canadien va l'emporter, Matt?
Hey, on croise et ça commencerait-tu bien la saison? Je pense que je suis pas tout seul à dire que quand je vais dire que ça fait des mois et des mois et des mois que j'attends le retour des Canadiens. Puis ce soir, je pense qu'on va avoir tout un affrontement. Habituellement, l'affrontement Maple Leaf-Canadien en début de saison, c'est un très, très bon match, là, historiquement parlant. Alignement de ce soir du Canadien qui a été dévoilé, sans surprise, la première ligne, Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Petite surprise sur la deuxième ligne, on a Bodduk, Dak et Gallagher pour la deuxième ligne, un trio qu'on a vu souvent dans le camp d'entraînement. Troisième ligne, sans surprise, on garde les trois ensemble qui avaient très bien performé ici au Centre Vidéotron. Alex Newhook, Kapanen et Demidov qui se retrouveront ensemble. Et finalement, le quatrième trio qui seront composés de Laine, Evans et Anderson. Donc Patrick Laine qui se retrouve sur le quatrième trio ce soir.
Déjà une démotion pour Patrick Laine en ce début de saison. J'y vais avec ma prédiction, la même que ce matin. Victoire des Leafs, 3-2, but d'Austin Matthews, milieu de troisième période. Ta prédiction, Mathias?
J'y vais avec un 4-2 canadien avec un but désert.
Profitez de ces bons moments de ce début de saison de hockey. Moi, je sais que les boys et Val vont avoir leur gilet du Canadien sur le dos ce soir. On va avoir bien du fun à regarder le hockey et également le baseball des Jays. Collez donc les gens que vous aimez à soir. Profitez-en. Prenez soin de tout le monde. Et nous, on se reparle demain dans l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101. C'est le retour de Denis Gravel qui suit immédiatement. Bonne fin de journée, mes amis, et à demain.
À demain.